Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, grosso, grosso, gol di grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci prova con il testo!
E la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 21e épisode du podcast Calcio et Pépé. C'est le dernier podcast de l'année 2018. On va donc en profiter pour débriefer la dernière journée de Serie A, c'était la 18e journée qui s'est déroulée en milieu de semaine pendant les fêtes de Noël. Et je suis toujours cette semaine, comme chaque semaine, vous en avez désormais l'habitude, avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous et toutes.
Alors Guillaume, gros programme encore une fois hein, pour ce 21e épisode. Je te propose, on va même pas dérouler le sommaire parce que ça nous fera perdre du temps. On va débuter directement dans l'ordre des matchs de cette 18e journée. C'était donc à 12h30 entre le Milan et Frosinone sur la pelouse.
Dans le vif.
Okay, avec un débat déjà voilà qu'on a fait sur Gattuso, mais là on va aller un peu plus loin parce qu'on va pas refaire entre guillemets le procès, mais parler du cas Gattuso, de ce qu'il a fait de bien ou de moins bien et de ce qu'il aurait pu faire et ce qu'on attend toujours de voir de sa part. On va parler d'une réflexion que t'as fait hier après le match et effectivement qui m'a un peu marqué parce que c'est pas dans les coutumes des clubs italiens où on a l'habitude des présidents qui parlent régulièrement, même parfois à chaud, même de manière exagérée, ou des directeurs sportifs qui viennent s'expliquer face caméra, ou voilà des managers généraux, etc. Et bien là, Gattuso est tout seul.
Ouais, il a un peu livré à lui-même, Gattuso, comme tu dis, on va pas refaire le procès. J'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 questions sur lui, donc on en reviendra en fin de podcast. Sur les dirigeants, donc les dirigeants c'est qui? Donc c'est Leonardo. Directeur sportif, Maldini qui est un peu on va dire son binôme, là il forme un duo, et maintenant il y a aussi Gazidis qui arrive d'Arsenal, donc qui a pris poste pour poste celui de Galliani et de Fassone voilà juste avant. Et c'est vrai que depuis que c'est un peu la crise, un peu même beaucoup la crise, c'est vrai qu'on sait pas parce qu'il parle plus, Leonardo ni avant ni après match. Maldini, de temps en temps, on pouvait le voir après les matchs. Là, on ne le voit plus du tout. Donc, c'est vrai que c'est le silence radio. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. La première, c'est se dire, et beaucoup me l'ont signalé hier sur Twitter, c'est de se dire que peut-être qu'il travaille en coulisses sur le successeur de Gattuso. C'est une possibilité, c'est même possible et plausible. Après, moi, je pense que ça ne doit pas t'empêcher non plus de parler, de faire le point sur la situation, parce que au-delà de la crise de résultats qui peut arriver, surtout la crise de jeu. Et Gattuso, du coup, après les matchs, il est tout seul. Alors, comme il dit, il est le capitaine du bateau, voilà, il assume ses responsabilités. Mais c'est vrai que je pense que lui aussi aimerait bien qu'un de ses dirigeants au moins le défende, ou au moins vienne parler pour faire un point, pour expliquer ce qui se passe, les objectifs d'ici à la trêve. Donc, il ne reste plus qu'un match maintenant. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu la foire aux spéculations, à qui va remplacer Gattuso.
C'est ça, justement, le problème, c'est que le silence ouvre la porte d'un peu tout et n'importe quoi en termes de réflexion, de spéculation, etc. On se dit, il communique pas, c'est pour ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ça. Et c'est vrai qu'il est pas soutenu, parce que on peut prendre le parallèle avec d'autres clubs de Serie A, même cette saison, par exemple quand la Roma ça n'allait pas du tout, et bon, c'est encore pas formidable, mais Monchi avant match était toujours sur Sky en train d'expliquer qu'il avait confiance dans l'entraîneur, que les joueurs devaient se réveiller, mais que les dirigeants avaient confiance aussi dans les joueurs. On peut prendre l'exemple de Marotta qui vient d'arriver à l'Inter, et hier avant match d'Inter Napoli, il vient répondre aux questions sur Nainggolan, qui est un cas quand même un peu épineux pour lui alors qu'il vient juste d'arriver, etc. Voilà, on sent un entraîneur qui est pas sur le devant de la scène en permanence, qui doit réagir sur tout, etc. Et là, Gattuso, le pauvre, j'ai l'impression que toutes les questions fusent, il prend tout dans la tête et il peut compter sur personne.
Et tu sais que surtout aussi ça dédouane les joueurs. Dans le sens où personne leur dit c'est de votre faute aussi. Enfin, Gattuso, Dieu sait qu'il a ses fautes, et vous savez que je suis le premier à le reconnaître et à l'admettre. Mais c'est vrai que les joueurs aussi, Gattuso, il n'est pas tout pour tout non plus. Et c'est vrai que si un ou deux dirigeants venaient parler à la fin du match et disaient Gattuso, d'accord, il fait ses erreurs, il les assume, mais les joueurs aussi. Et ce serait bien aussi de leur dire, même publiquement, parce que là, c'est vrai que Gattuso, prend un peu pour tout le monde. Et du coup, même à la place des joueurs, je sais même pas s'ils savent qui sera l'entraîneur après la trêve. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut aussi les dédouaner. Donc c'est vrai qu'on reprochait beaucoup, je me rappelle, à Galliani à l'époque de parler beaucoup après les victoires et peu après les défaites. Et c'est vrai que si on faisait le procès à Galliani à l'époque, on a le droit aussi de le faire à la nouvelle direction qui est là depuis pas longtemps. Maldini aussi apprend le rôle. C'est un nouveau rôle pour lui. Alors je pense qu'il se fait aussi un peu en retrait.
Je trouve que c'est Leonardo qui devrait venir s'expliquer. C'est pas Gazidis qui est arrivé depuis 15 jours, qui hérite d'une situation, même s'il la connaît et qu'il a pu travailler dessus, mais c'est pas lui qui vient juste d'arriver d'aller s'exprimer devant les médias. C'est vraiment à Leonardo qui connaît évidemment plus lui tous les rouages du système médiatique italien, comment répondre aux questions, etc., etc. Donc, c'est vrai que son silence est un peu étrange.
Je te dis, c'est un peu le foutoir vulgairement parlant. Donc tout le monde dit, même les médias aujourd'hui annoncent que contre la Spal, alors de ce que disait Sky Sport hier, très bien informé toujours, qui disait que si Gattuso, alors c'est spécial, mais apparemment si Gattuso ne gagne pas bien contre la Spal, il pourrait prendre la porte.
Autrement dit, une victoire 1-0 avec un but à la 90e, ce sera pas suffisant.
Voilà. Mais ça veut dire quoi? Du coup, si tu joues tout bien le match et tu marques face, c'est particulier. C'est très subjectif. Hein. Peut-être pour toi, ils joueront bien et pour moi, non. Donc, moi, je pense que, j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait que même s'il y a victoire, honnêtement, moi, je pense qu'on se dirige quand même vers la fin. Surtout que là, c'est le sujet qu'on a choisi de parler, c'est le fait que les dirigeants parlent plus. Si Gattuso était vraiment soutenu, tu vas pas me dire que Leonardo serait pas venu dans les micros en disant, tapant une poing sur la table et en disant, les médias, vous avez tort. Tu sais, les démentis même classiques, un peu de langue de bois, comme le font beaucoup de dirigeants italiens aussi, mais juste venir faire le point, dire, les rumeurs sont fausses, Gattuso est notre entraîneur, il le restera peu importe les résultats. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur le fait que aucun démenti, aucune déclaration, c'est carrément la porte ouverte à toutes les rumeurs, à toutes les spéculations.
Bon, écoute, on va suivre ça avec intérêt, sachant que Gattuso avait quand même entre guillemets, l'obligation de gagner les deux matchs avant la trêve. Oui. Donc Frosinone s'est raté avec ce 0-0, pour parler 30 secondes du match, qui est quand même assez insipide. Alors Milan a eu quoi, 3-4 grosses occasions, dont un poteau. Ouais. Et mais Frosinone, on a eu autant.
Si je te demande qui fait les plus gros arrêts.
Oui, ce sera Donnarumma.
Ah oui, Donnarumma fait un énorme arrêt à la fin. Il y avait un peu de mieux, voilà, comme tu dis, il y a eu quelques occasions. Higuain mange la feuille à la fin, et ça, c'est pas de la faute de Gattuso, ça, je suis entièrement d'accord. Après, dans le jeu, moi, honnêtement, les crises du résultat, j'en ai vu d'autres, on en a connu tous les clubs en connaissent. Moi, c'est vraiment la crise de jeu qui m'inquiète, parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui joue même plus au football. C'est vraiment triste, on s'ennuie devant les matchs, les joueurs psychologiquement n'y sont plus, et on peut, voilà, ça, c'est aussi le cas d'Higuain qui, s'il était en forme, s'il était très serein, dans un bon moment, sa frappe à la fin, il est d'accord qu'il la met. Il doit s'y mettre, il la met. Et c'est vrai que tout ça découle aussi de la période qu'il traverse. Alors, est-ce qu'il va partir? Ça, c'est notre question. C'est dans les tuyaux, on va pas se mentir. De ce qui se raconte, quand même, c'est, voilà, Sarri aimerait bien récupérer Chelsea.
Et puis, il y a un chiffre quand même qui est important, hein, sur Higuain. C'est que, son salaire sur l'année, là, sur la saison, pour le prêt, revient chargé, donc avec les taxes, à 17 millions d'euros pour l'AC Milan. Donc c'est monstrueux, en 9, plus des 18 millions d'euros de prêts.
Il a 9,5 net, hein, il me semble. Hein. Donc oui, bah, c'est sûr. C'est sûr. Après, moi, je pense que même avec la thèse, il y est plus. On parle quand même d'un attaquant qui a mis, j'ai vérifié hier, 111 buts en 5 ans. Ouais. Et je veux dire, alors qu'on parle de voilà, le fait qu'il ait raté des buts, ça c'est vrai. Pour moi, il est aussi coupable de. Il s'enferme dans une situation qui est un peu complexe, mais un attaquant qui met 111 buts en 5 ans, il peut pas devenir un attaquant qu'il est aujourd'hui. Ça découle aussi du jeu qui est produit, du nombre de ballons qu'il a, et voilà.
Et puis c'est d'une spirale de nervosité, oui. Pardon, dont il n'arrive pas à se sortir, en fait.
Oui, c'est vrai. Encore hier, 2-3 fois après l'arbitre, et même ses coéquipiers. Je sais pas si t'as remarqué, mais plusieurs fois, si on lui passe pas le ballon, Casillero par exemple a frappé 2 fois, dont une fois où il frappe un poteau, et c'est vrai que 2 fois il s'est énervé parce qu'il a pas reçu le ballon. Donc est-ce que c'est symptomatique du fait que ça annonce probablement un départ? C'est possible, après rien n'est acté, mais c'est vrai que dans le jeu, moi je pense vraiment qu'il faut, voilà, on sait très bien que dans ces moments-là c'est sur l'entraîneur qui paye, mais je pense vraiment qu'il faut, voilà, il faut une secousse, il faut quelque chose, parce que comme tu dis, on va pas faire le procès Gattuso, on l'a déjà fait la semaine dernière. Là, ça devient vraiment compliqué, il n'y a plus rien. On peut
conclure sur cette crise en rappelant quelques stats qui, voilà, expliquent et montrent à quel point c'est compliqué pour l'AC Milan en ce moment. J'ai trouvé tout ça dans la Gazzetta dello Sport de ce matin. Alors, on enregistre, on est donc jeudi, hein, pour ceux qui nous écouteront un petit peu plus tard. On est jeudi midi. L'AC Milan reste sur 4 matchs consécutifs de Serie A sans marquer. Cela n'était pas arrivé depuis 1984. Donc avant que Berlusconi vienne à l'AC Milan. Cela fait presque 2 mois, donc depuis le 31 octobre dernier, que Milan n'a pas marqué en première mi-temps d'un match.
Voilà. C'est incroyable.
C'est un symbole plus que synonyme des difficultés offensives de cette équipe. Pour revenir sur Higuain, donc ça fait 802 minutes, 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, qu'Higuain n'a pas marqué. C'est quand même un chiffre très très important et trop important pour un joueur de cette qualité. Et pour un club comme Milan, qui a des ambitions évidemment cette année. Il y a eu que 2 buts au mois de décembre du côté de la Milan en Serie A. Pire attaque, aucune équipe de Serie A ne fait pire. Et puis Milan est la seule équipe de Serie A à ne pas avoir marqué sur les 4 derniers matchs. Donc
ça reflète quand même, tu vois, la crise de jeu que je décris quand même beaucoup. Moi au-delà des résultats, c'est vraiment le jeu. Enfin, c'est comment tu arrives à la surface adverse. D'ailleurs, tu vois un truc tout bête, mais hier un ami me demandait, mais c'est vrai qu'à Milan, on voit plus, tu sais, des situations par rapport à la VAR, des pénalties. J'y vais, il n'y en a plus parce qu'ils arrivent plus dans la surface.
Ouais.
Donc du coup, tu t'appuies, situation, tu sais, un peu limite, un peu de polémique. Non, parce que la trame de jeu et le comment tu arrives à la surface adverse n'existe plus. Donc c'est vrai que c'est dramatique. Dis-toi que la dernière victoire, c'est contre Parme. C'était au mois d'octobre. Le dernier but, c'est Kessié sur penalty en Serie A. Sinon, tu remontes à l'Europa League contre l'Olympiakos, coup de pied arrêté avec Zapata. Donc c'est incroyable quand tu marques pas. Il faut se dire quand même qu'ils ont Higuain dans l'effectif, ils sont coutronnés. On se doutait pas là hier, mais il est quand même là. Çalhanoğlu, enfin, c'est quand même des joueurs qui sont connus et reconnus et qui peuvent marquer. Et quand tu marques pas, comme tu disais, depuis 4 matchs, et pourtant, t'as pas joué des ogres, hein. T'as joué Bologne, t'as joué la Fiorentina, t'as joué le Torino et t'as joué Frosinone, qui a pris des buts à peu près par tout le monde.
Ouais.
Donc, et d'ailleurs, tu me disais en off tout à l'heure, c'était la deuxième fois qu'ils ont quitté pas à domicile
de
l'année. Donc, ça reflète quand même beaucoup le fait, voilà, que Milan, ça va pas, Milan, ça va plus. Et je pense que vraiment, à la trêve, il faut soit intervenir sur le mercato, mais lourdement, et ça va être compliqué au vu de l'UEFA, du fair play financier. Et soit, malheureusement, et je dis vraiment malheureusement parce que moi, j'apprécie beaucoup Gattuso. Mais voilà, je pense que c'est peut-être l'heure de changer. Et je pense qu'on en parlera à la fin, voir qui pourrait être son successeur avec les questions.
Alors, on va passer à un deuxième sujet. Alors, on aime beaucoup parler de terrain, évidemment, de jeu dans Calcio EPP.
Oui.
On n'a pas ce côté italien pour autant de polémiques, de relayer tout ça. Mais là, cette semaine, on a quand même trop de choses à évoquer. On peut pas passer à côté parce que si on veut vraiment coller à l'actu du foot italien, on est obligé de parfois en parler, ou en tout cas quand ça domine à ce point l'actualité du foot italien, on est obligé d'en faire le relais et de vous en parler. Tu voulais revenir sur la polémique entre De Laurentiis et Allegri, donc qui a commencé avant la journée et qui s'est poursuivi jusqu'après le match Atalanta-Juve qui s'est terminé sur un score de 2-2.
Oui, il y a eu, allez, pas dire la réponse du berger à la bergère avec De Laurentiis qui avait parlé de Matt Soleni, toi, avant Inter Napoli hier, donc l'arbitre du match. On en parlera tout à l'heure avec ce qui s'est passé. Et Allegri, hier, après le nul à Bergame, voilà, est un peu revenu sur les propos de Laurentiis, en disant, voilà.
Sans jamais le nommer, hein.
Comment? Sans nommer, ouais. Exactement. Disant, voilà, des personnes, des hautes sphères de certains clubs. Et il a dit, voilà, j'ai perdu la patience, j'ai perdu ma bonne humeur, je suis pas de bonne humeur. Mais il dit, je parle pas des arbitres, il dit que Bonti, hein, donc l'arbitre de Atalanta, il avait pas arbitré, mais il dit que voilà, il y a eu des déclarations pesantes de certains responsables de certains clubs vers les arbitres qui voilà créent un peu de clivage, et il est même revenu, voilà, il a dit ça peut créer des incidents du bord du sol, c'était un peu confus. Et c'est vrai qu'en Italie ça fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, donc il y avait un peu ceux qui étaient du côté de Laurentiis, d'Allegri. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que hier ça a fait beaucoup beaucoup parler.
Alors moi, tu sais que je parle très peu d'arbitrage, oui. Et voilà, parce que
à part de la VAR.
Oui, à part de la VAR pour la critiquer, mais ça c'est autre chose. Mais de manière générale, voilà, les arbitres font leur taf et c'est pas évident, et il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas être à leur place, et voilà, donc tout ça faut le prendre en considération, la vitesse du jeu qui est de plus en plus haute, l'intensité qui est, les contacts de plus en plus rugueux, voilà, des joueurs aussi qui sont roublards, enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui explique que un arbitre peut se tromper, comme un joueur peut se tromper, comme un entraîneur peut se tromper, comme un président peut se tromper, comme un directeur sportif peut se tromper, ça c'est clair et net, donc j'aime pas en parler. Et effectivement, j'ai horreur de ces déclarations, aussi bien avant match qu'après match, parce qu'après match, critiquer un arbitre, je vois pas ce que ça peut changer à part jeter un espèce de soupçon sur l'arbitre en disant qu'il est de mauvaise foi, que etc etc. Donc ça, je trouve ça de toute façon inadmissible, quel que soit le championnat, c'est valable pour la Ligue 1 comme pour la Coupe du Monde, comme pour la Serie A. Et puis en avant-match, j'ai même envie de dire que c'est pire, parce que avant même qu'il se passe quoi que ce soit, voilà, on jette un fort soupçon sur un arbitre, ça crée un climat évidemment de tension, déjà pour l'arbitre, parce que forcément ça lui revient aux oreilles, donc il n'est pas serein dans sa préparation de match, et puis ça crée aussi alors on parle de problèmes d'ordre public, etc., mais sans aller jusque-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que forcément, les choses peuvent dégénérer dans un stade, on le sait. Et par exemple, s'il y a un pénalty qui est sifflé, alors que le président, ben là, on va reprendre l'exemple, mais imaginons Mazzoleni hier, qui avait été critiqué par De Laurentiis avant le match, siffle un pénalty en faveur de l'Inter. Il se passe quoi? Les gens vont s'agacer dans les tribunes, le climat va devenir délétère. On n'est pas à l'abri qu'un mec complètement taré sorte, il vienne sur la pelouse. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui devraient pas exister, et moi je suis pour que dans les règlements des compétitions, il y ait des sanctions qui soient prévues pour les entraîneurs, les joueurs, les présidents, les officiels d'un club qui se permettent de commenter de manière grave les prestations ou pas, parce que là l'arbitre avait même pas encore arbitré, de jeter voilà des soupçons comme ça sur les officiels des matchs. Je suis pour qu'il y ait des sanctions qui soient prévues, que ce soit des interdictions de vestiaire, des interdictions d'effectuer sa fonction de président, par exemple, pour un président, des matchs de suspension pour les joueurs, etc. Et on verra que même sans la VAR, si tous les acteurs du football se calment et arrêtent de polémiquer, de chercher la polémique, de balancer sur les arbitres, etc., bah les arbitres deviendront aussi plus sereins, seront aussi plus calmes dans leur manière d'arbitrer, moins stressés, moins tendus, et que les choses vont aller dans le bon sens. Et je suis d'accord avec une phrase d'Allegri hier dans cette conférence de presse que j'ai vue sur Sky, où il se dit « l'exemple doit venir d'en haut ». Et ben je suis tout à fait d'accord avec lui. Un président, un entraîneur, les tifosi, on peut pas les raisonner parce que il y a beaucoup trop de tifosi malheureusement qui sont dans un esprit de supporterisme, oui, vraiment, oui, oui. De un peu bête entre guillemets, et ça forcément on pourra pas les raisonner, mais je suis désolé, les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents, ils doivent pas aller dans ce sens-là, et il faut, et la phrase d'Allegri aussi, c'était éduquer les supporters. Et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Et une chose que j'apprécie chez Allegri, il l'a répété hier, c'est que lui, il évite de parler de l'arbitrage de manière générale, il en parle très peu par rapport à certains. Et je suis bien d'accord donc du coup avec ce propos, il faut éduquer les tifosi et l'exemple doit venir d'en haut. Donc mettons des sanctions aux présidents, aux entraîneurs, etc. qui d'ailleurs, justifient leur défaite par l'arbitrage en critiquant sévèrement les arbitres.
D'ailleurs, Allegri a dit qu'en Italie, je cite, on n'évoluera jamais si on continue dans ce sens-là.
Bien sûr.
Et c'est, voilà. Et c'est vrai.
Ça fait des années que c'est comme ça. La polémique fait partie du truc, mais.
Exactement.
Mais après, on peut pas s'étonner de certains faits qui arrivent dans les stades, quand on se comporte de cette manière-là. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème. Ouais.
Tu sais, les propos de De Laurentiis, moi, j'y ai repensé hier, en regardant le match Inter-Naples. Et je me suis demandé, alors. C'est pas avéré, hein, mais tu sais que tu peux te demander quand même si de tels propos sur les Zoni quand t'es joueur, ça peut aussi jouer dans le sens où je pense que les joueurs de Napoli ont lu, ont entendu ce qu'avait dit leur président. Et c'est vrai que quand il prend une décision peut-être un peu litigieuse, c'est vrai que à la place des joueurs, tu peux te dire aussi, ah bah ça y est, notre président avait raison.
Oui.
Et tu peux le dire même sur le terrain. Donc rien ne te dit, ça c'est purement subjectif, y a rien d'avéré, mais rien ne te dit par exemple les applaudissements de Koulibaly, par exemple, qui sont pour le coup dirigé à l'arbitre, on parlera après, oui, ce qui s'est passé dans le stade, mais qui sont adressés à l'arbitre, ça découle aussi, et d'ailleurs Caressa, je crois, en parlait hier, ou d'autres sur Sky, il disait, c'est vrai qu'aussi ça peut aussi découler de ça, dans le sens où tu mets beaucoup de nervosité chez les joueurs, et tu leur crées, toi, peut-être un alibi, dans le sens où si Mats Hollén, il s'est fait un truc un peu, ou une faute, voilà, un peu litigieuse, par exemple, voilà, le carton rouge d'hier, c'est vrai que tu peux dire, bah voilà, notre président avait raison, du coup tu protestes. Et c'est vrai qu'à la fin, ils ont fini avec deux rouges. Mmh. C'est quand même assez rare, même à Naples. Et c'est vrai qu'ils étaient très nerveux à la fin. Voilà, Mario Rui, alors je sais pas si vous l'avez, oui, vu, mais sur ce cas, ils l'ont passé, oui, très énervé.
Ah bah c'était limite à aller tête contre tête avec l'arbitre.
Ah ouais, c'était vraiment
absolument lamentable. Et d'ailleurs, sur la foi des images, j'espère bien qu'il prendra un match de suspension minimum.
Ah, je sais pas si en France, tu vois, ils l'ont eu parce qu'avec Bean, je sais pas si ils avaient coupé avant. C'est vrai que sur Sky, on a vu, mais c'était incroyable. Ouais. Il était vraiment possédé. Et c'est vrai que tu peux aussi te dire que les propos de De Laurentiis sur Mats Hollén avant le match, n'ont fait que, tu vois, que rendre nerveux les joueurs. Et voilà, quand tu fais quelque chose un peu litigieux, tu peux te dire notre président avait raison et du coup tu pètes un plomb. Donc c'est vrai que c'est dommageable pour tout le monde, pour le foot et surtout pour même parfois tes joueurs.
Bon, on va essayer de rééquilibrer un petit peu en reparlant de jeu avant de retomber dans un autre fait malheureux.
Oui.
Du ouais. Week-end, on va parler de la Roma qui jouait donc à 18h mercredi contre Sassuolo. Alors déjà, moi, figure-toi qu'il y a une chose qui m'a étonné, c'est pas la première fois que je le vois, c'est que De Zerbi choisit de mettre des équipes un peu bis contre les gros du championnat. Alors bon, il peut y avoir une certaine forme de logique parce qu'il peut se dire, je m'attends pas à prendre des points forcément contre les gros. Donc tant pis, ces parties-là, on les joue un peu comme on peut, et puis je mets le paquet contre les vrais adversaires de notre championnat à nous, entre guillemets, pour les battre, etc. Ça, c'est la première chose. La vision un peu moins optimiste, on va dire, qu'une réflexion que je me suis faite hier, c'est dommage, parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de franchir un cap. Et c'est pas en affrontant Bologne, Frosinone et Empoli qui vont le passer, ce cap. C'est justement en se mesurant à des joueurs qui sont bien supérieurs à eux. J'ai pensé à ça parce qu'à Naples, il avait déjà fait beaucoup tourner en début de saison, ça m'avait étonné. Et là, contre la Roma, il a encore fait tourner, sachant que Duncan a été suspendu de mémoire. Il y avait Sensi sur le banc, donc deux tiers du milieu de terrain titulaire qui n'était pas là. Lirola, l'excellent arrière droit que j'aime beaucoup, moi personnellement, était pas titulaire. Et du coup, c'est Lemos l'ancien de Villar, non pas de Villarreal, de Las Palmas, je crois, qui est un défenseur central qui jouait donc arrière droit. Rogério était suspendu lui aussi, donc l'arrière gauche n'était pas là. Et puis il manquait encore Federico Di Francesco, qui n'était pas titulaire non plus. Enfin voilà, il manquait 4 ou 5 joueurs. Et je t'avoue que ça me surprend parce que on en parlait avec Christophe quand on avait fait le spécial tactique. On disait l'équipe elle est un peu naïve et il faudra sans doute des gros matchs pour essayer de s'affirmer un peu plus, de prendre en expérience, etc. Et sauf que si ces joueurs-là ne jouent pas ces matchs-là, ils y arriveront jamais. Donc il y aura une certaine stagnation entre guillemets dans, on va dire, dans le caractère que cette équipe peut avoir et dans la progression, dans la gestion des matchs que peuvent donner ces rencontres face à des grandes équipes. Je sais pas si tu veux ajouter un truc là-dessus ou si on part sur...
Non, mais je suis entièrement d'accord dans le sens où le problème, c'est que tu les mets pas dans le gros match, c'est compliqué qu'ils passent même le cap.
Ouais.
C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, j'y ai repensé hier en regardant le match, la naïveté sur même pas d'action, pas forcément qu'il y avait des buts, mais sur des placements, sur des combinaisons, sur du marquage, il y a vraiment une naïveté qui est grande. Et malheureusement, c'est vrai que ça te coûte parfois les matchs. Je vais te laisser continuer sur la Roma. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on reparle de ce fameux but. Goal line technology
oui,
ou pas.
Patrick Schick.
Ah ouais, je pense que là, on tient quand même le but le plus litigieux de l'histoire de la goal line.
Ça doit jouer à 2 mm maximum, je pense.
C'est incroyable. Ouais. C'était...
En plus, sur une action totalement anodine, entre guillemets, parce que c'est un... Je sais plus si c'est un corner ou un centre. Côté droit, et c'est Schick qui du bout du pied dévie le ballon pour le contrer, ça monte, ça va sur la barre, ça rebondit derrière la ligne mais pas totalement derrière la ligne, ça ressort ensuite, enfin c'est vraiment
comme quoi le football se joue à rien parce qu'il marque 2 minutes après, 3 minutes après.
Ouais, exactement.
Donc c'est vrai que j'avais lu d'ailleurs tes commentaires avec notre ami de l'AFP, j'ai un trou,
Stanislas,
voilà. Ouais. Stanislas en se disant que Schick n'était pas quand même passé loin de la correctionnelle. Mais voilà, c'est vrai que pour revenir à Sassuolo, trop de naïveté. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi sur le fait que des arbitres fait beaucoup tourner.
Ouais.
Et là, essayer de corriger un peu le tir, même à la mi-temps. Mais c'est vrai que malheureusement, c'était trop tard. Et c'est vrai que c'est une question qui peut être posée. Donc, on verra bien les prochains matchs. Mais c'est vrai que des arbitres fait parfois des choix étonnants.
Alors du côté de la Roma, le focus aujourd'hui, on aurait pu le faire sur Zaniolo, mais on l'a déjà fait il y a un mois, je crois à peu près, ou un petit peu moins d'un mois. Voilà, il confirme le bien qu'on pense de lui. Mais j'ai choisi plutôt de parler de Diego Perotti, parce que tu te souviens, j'en parlais lorsqu'il était blessé. Pour moi, c'est un élément un peu capital de cette équipe. Alors c'est pas forcément un titulaire qui va faire 38 matchs dans la saison. Mais c'est un profil de joueur que n'a pas la Roma et c'est en ça qu'il est intéressant. Tu sais, des fois on dit pour les postes de numéro 9, par exemple en équipe de France, on prend Giroud parce que c'est un profil un peu différent. C'est un grand attaquant, qui peut jouer pivot, dos au but, en déviation, etc. Donc les entraîneurs aiment bien parfois avoir des profils un peu différents pour apporter autre chose. Et c'est vrai que la Roma, quand tu regardes les ailiers qu'elle a, elle a Stefan Alcharaoui, Justin Kluivert et Cengiz Under. En gros, c'est 3 joueurs déjà qui aiment bien rentrer dans l'axe pour laisser la place au latéral ou pour frapper en roulé. Et c'est des joueurs qui misent beaucoup aussi sur leur vitesse, leur pointe de vitesse et leur accélération. Sauf que Diego Perotti est pas du tout comme ça. C'est plutôt un joueur de rupture avec des dribbles courts, mais qui vraiment met en difficulté les latéraux adverses. J'ai du mal à trouver un joueur qui lui ressemble aujourd'hui en Serie A ou même en réfléchissant rapidement dans les 5 grands championnats européens. C'est un joueur qui pourrait jouer quasiment tout le temps arrêté. Et une fois qu'il a fait son premier dribble, il peut partir. Et en plus, il a cette facilité à aussi bien partir extérieur qu'intérieur. C'est-à-dire que le latéral ne sait jamais ce qu'il va faire. On peut prendre l'exemple par exemple de Cengiz Under. Il fait, 80% du temps un dribble pour revenir sur son pied gauche et centrer ou passer, prendre un appui derrière avec un milieu de terrain et attaquer la profondeur. Et 20% du temps, il va revenir sur son pied droit à l'intérieur, sachant qu'il le fait il le fait pas trop parce que son pied droit est loin d'être aussi bon que son pied gauche. C'est un peu comme Robben. Robben, lui, c'est même 98% du temps, il revient sur son pied gauche et il frappe. Bon. Lui, on ne sait jamais. C'est quasiment à 50-50. En plus, il est à l'aise pour conduire la balle pied droit, pied gauche. Ça, c'est une vraie force. C'est-à-dire que quand il est sur le côté gauche et qu'il dribble extérieur, il peut conduire le ballon du pied gauche. J'ai une action en tête avec Lemos qui a pris un bouillon hier, pas possible, où il se fait dribbler sur l'extérieur de façon magistrale, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un profil de joueur qui manquait à la Roma. On rappelle qu'il avait joué qu'un seul match titulaire cette saison. Il était déjà pas en grande forme physique, il était blessé depuis deux mois, il avait joué titulaire, il avait fini cramé, il avait pas été bon, c'était à Bologne, l'un des pires matchs de la saison de la Roma. Et là, il revient en bon moment. Di Francesco lui a laissé plus de temps pour revenir. C'est-à-dire que ça fait au moins 2 semaines qu'il a repris l'entraînement collectif de mémoire, ou 10 jours. Donc il a fait plusieurs entraînements. Là, il revient, etc. Donc il a eu un peu plus de temps pour parfaire sa condition physique. Il était entré aussi en cours de match contre, je vais pas me souvenir, mais je crois que c'était contre l'Inter.
Oui, je t'avais dit que j'avais été inquiet.
Ouais, avec Pastore et Perotti qui étaient rentrés en même temps. Oui, c'était contre l'Inter, c'est ça. Et donc là, il a pris le temps de revenir. Et c'est un joueur qui va être capital parce que il t'apporte totalement autre chose. Il y a un côté imprévisible en attaque qui manque vraiment à la Roma, où c'est parfois stéréotypé cette saison. Du genre les longs ballons sur Dzeko et puis débrouille-toi avec ça. Il y en a eu beaucoup quand même en début de saison et ça risque de changer un petit peu. Et justement à propos de Dzeko, lui aussi revient de blessure, donc ça c'est une deuxième bonne nouvelle. C'est un peu le retour des blessés à la Roma. C'était pas une excuse parce que ceux qui jouaient n'étaient pas bons. Di Francesco parfois donnait l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Le mercato, bon, et pour l'instant est pas forcément une réussite. Donc il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais c'est vrai que la liste de blessés n'arrangeait pas les choses, un peu comme à Milan. On peut pas tout mettre sur la liste des blessés, mais quand même, ça n'arrangeait pas les choses également. Et là, c'est vrai que ça commence un peu à se vider du côté de l'infirmerie, puisqu'il y a El Shaarawy et Pellegrini qui ne devraient pas tarder non plus. S'ils sont pas aptes pour le prochain match, ils le seront pour le premier match de 2019, peut-être pas la Coupe d'Italie, mais au moins la Serie A. Donc voilà du côté de la Roma. Bah, Perotti, écoute, c'est un joueur. Ouais, c'est un joueur pour, tu vois, quand la Roma l'a recruté, j'étais assez sceptique. J'avais du mal à voir toutes ses qualités au Genoa, notamment où il était particulièrement irrégulier, capable de très bonnes choses, mais aussi de passer totalement au travers. Et là, je pense que ça va redonner un peu un coup de boost à l'attaque de la Roma.
Mais l'important, c'est qu'il revienne aussi physiquement, hein, parce qu'on sait que la blessure avait été assez longue et assez particulière. Donc c'est vrai que c'est important qu'il revienne surtout physiquement, parce que comme tu dis, il a une capacité vraiment à changer de rythme.
Ouais.
Il a une capacité de rupture dans le fait où il part à 0 km/h, il peut passer à une vitesse assez exceptionnelle en arrière temps. Et c'est vrai que ce profil, comme tu disais, c'est assez rare en Serie A. Et c'est vrai que s'il redevient le Perotti qu'on a même connu fut un temps, c'est vrai que pour la Roma,
rien que la saison dernière ou la saison d'avant, hein, c'était quand même autre chose.
C'est un profil que la Roma n'a pas.
Non.
Ils ont beaucoup d'ailiers. Mais dans le profil qu'il est et dans le jeu qu'il a et ce qu'il peut apporter à cette Roma-là, c'est vrai que ça manque. Et c'est pour ça que je pense que Di Francesco a pris son temps aussi, comme tu disais, dans le sens où il n'a pas voulu non plus prendre de risques, parce qu'on sait que les rechutes, ça peut aussi aller très rapidement, surtout à la Roma. Okay. On sait que les blessures, ça s'est compliqué cette année.
Plus de 35 blessures musculaires en 4 mois.
Ouais, je sens que c'est ton fil rouge.
Exactement, j'ai un tableau Excel où je note.
J'allais te le dire. Et je pensais que tu avais une petite feuille à 4 avec des petits bâtons que tu rajoutes à chaque fois.
C'est limite.
Mais
ça.
Mais c'est vrai que non, pour plus sérieusement, c'est avec Perotti, si elle devient le Perotti de l'année dernière ou il y a 2 ans, ça peut vraiment être le monsieur plus pour la deuxième partie de la saison de la Roma, où ils vont devoir carburer pour remonter le retard accumulé cette saison.
Pour la 4e place qualificative pour la Ligue.
Qui est toujours là, hein, qui est pas loin. Hein.
4 points pour le moment, toujours. C'est toujours aussi serré.
Il faudra quand même parler et quand même se dire un jour que cette année, au niveau de la Serie A, est quand même pas fou. Hein. À part la Juve qui est vraiment. Mais derrière, par rapport à l'année dernière.
Ouais.
J'ai l'impression quand même qu'il y a une.
Il y a un peu moins de certitude aussi.
Il
y a des clubs qui ont changé d'entraîneur aussi, mine de rien. Et puis c'est aussi l'effet post-Coupe du Monde. Hein. Je trouve qu'il y a des effectifs où il y a des joueurs qui tirent un peu la langue, comme des internationaux qui ont un peu de mal à reprendre.
Comme Perisic.
Ouais, comme Perisic, comme Zonzi à la Roma. Il y en a d'autres. Hein. Donc il y a tous les internationaux aussi italiens. Non, je plaisante, Guillaume. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. C'était juste méchant. Pour te rappeler. Ce merveilleux souvenir d'un bel été passé à regarder les sélections des autres.
Sais. Encore 4 ans, Johan. Encore 4 ans à supporter tout ça.
Je te propose de passer un événement nettement moins joyeux. Alors, je sais même pas par où commencer cet Inter-Naples. On peut commencer par l'idée qu'on s'était fait de ce match, un choc qui allait être déterminant pour la deuxième et la troisième place. Deux équipes qui ont alterné les périodes entre bien jouer et gagner, et pas très bien joué, et gagner aussi, ou parfois, ça, notamment l'Inter, lâchait aussi quelques points en fin de rencontre, des joueurs qu'on a vraiment beaucoup aimés hein, sur ce début de saison, on peut parler de Brozovic, côté Inter, Icardi, évidemment, on peut parler de Skriniar, Handanovic, côté Inter, et puis Naples, on peut parler de Insigne, d'Alan, de Zielinski, de Koulibaly, évidemment, enfin voilà. Et on était vraiment impatients de voir ce choc, et puis, bon, alors déjà sur le terrain, on va faire 30 secondes rapidement, c'était pas dingue, parce qu'il y avait beaucoup moi, en fait, j'ai l'impression de voir en première mi-temps un match du championnat anglais. Beaucoup d'intensité, mais des pertes de balles dans tous les sens, zéro technique. Et donc, du coup, ça donnait une impression de vitesse dans le jeu et d'intensité. Bah, parce qu'il y avait tellement de pertes de balles que le ballon allait d'un camp à l'autre. Donc ça, c'est pas forcément le foot que je préfère. Après, la première mi-temps était plutôt à l'avantage de, c'était assez équilibré,
C'était assez équilibré. Le coup d'envoi était drôle.
Oui.
Pour venir sur le coup d'envoi.
Ah oui.
Pour ceux qui l'ont pas vu. Quand même très drôle, la Icardi. Alors, c'est quand même, moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Je sais pas si toi, t'avais déjà vu. Alors, le fait de tirer directement sur le coup d'envoi, et le pire, c'est quand même qu'il a failli la mettre.
Ouais.
Il tape la barre.
Je suis pas certain que Meret soit hyper, hyper serein, quand même, sur l'occasion.
Ah non, mais je pense qu'il s'y attendait pas. C'est comme disaient hier les commentateurs, je crois que c'était Trevisan et Adan, qui disaient, je pense que Meret était pas très serein parce qu'il a reculé. C'est vrai qu'il se tape même un peu bizarrement.
Ouais.
Alors, je sais pas s'il avait été tout dessus ou s'il pensait à la capter. Mais c'est vrai que je crois qu'il était à 50 mètres par là, il me semble, Icardi. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça. Et ça aurait été quand même très drôle qu'il marque sur le coup d'envoi.
Oui.
Mais pour revenir sur le match, oui, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime vraiment chez l'Inter, je le dis quand même depuis quelques temps, c'est le fait que c'est vraiment une équipe qui a la personnalité. Ouais. Tu te rappelles, ils avaient été à Turin.
Oui.
Ils n'étaient pas dégonflés. Ils avaient fait leur match. Si Gallardini avait un peu mieux cadré sa frappe, ils auraient même pu gagner.
On peut dire qu'ils avaient été assez mal payés, ouais, sur le.
Ils avaient été assez mal payés. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime chez l'Inter, c'est que, voilà, c'est une équipe quand même qui vient de loin. On se rappelle les années un peu sombres. Il y a eu la Ligue des Champions. Et c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup le sens où, voilà, Spalletti a apporté une personnalité. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils valent aussi. Et c'est vrai que quand ils arrivent sur un terrain, je te dis, même à Turin ou hier contre Naples, moi, j'ai bien aimé le pressing, j'ai bien aimé l'intensité qu'ils ont voulu apporter. Ils ont gagné beaucoup de duels en première mi-temps. Ils ont beaucoup gêné la relance de Naples. Ancelotti avait dit après, enfin, a dit après le match, j'ai vu ça tout à l'heure, il lui disait, moi, j'étais venu pour attaquer. Et voilà, je pensais pas qu'on allait, tu vois, devoir contraint aussi à défendre. Et c'est vrai que le pressing de l'Inter fait vraiment mal, notamment avec Borja Valero et Romario qui ont fait un bon match aussi et qui, dans le pressing, ont apporté beaucoup. Donc, c'est vrai que c'était un match, voilà, assez plaisant, même si après un mi-temps, voilà, n'était pas non plus folle. Et malheureusement, voilà, on va en parler, mais c'est vrai que ça a basculé sur le carton rouge de Koulibaly.
Bon, alors, je pense que tout le monde a vu les images, une obstruction pour empêcher Politano sur le côté de le prendre de vitesse, carton jaune, et Koulibaly applaudit l'arbitre, derrière, ironiquement, entre guillemets, et il prend, alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'il prend un rouge direct, parce que j'avais plutôt l'habitude de voir un deuxième carton jaune dans ces cas-là et qui se transforme en rouge. Mais là,
j'ai pensé aussi.
Ouais, il prend un rouge direct. Alors bon, on évacue la polémique. C'était destiné aux supporters et pas à l'arbitre.
Non,
c'est absolument faux. C'était bien destiné à l'arbitre. Sur tous les angles, on voit qu'il regarde l'arbitre et qu'il s'adresse à l'arbitre en direction de l'arbitre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle on va s'arrêter, évidemment, c'est les cris racistes, les
boues, le
les fameux boues, boues, boues. Pour pas le refaire comme eux le font dans les stades, dont a été victime Kalidou Koulibaly pendant tout le match, dès le premier ballon touché. Et d'ailleurs, on l'a vite entendu, hein, parce que sur Sky, bon, on a le son du terrain, etc., parfois un peu mieux que les retransmissions internationales, enfin en tout cas que le signal international qui est envoyé aux autres télévisions étrangères. Et l'annonce du speaker, on l'a vite entendu, hein, c'était dès la 5e ou 6e minute, la première annonce. Alors, par où commencer? Je te propose de commencer par ce qu'a expliqué Ancelotti à la fin du match pour mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, Ancelotti a expliqué à la fin du match que Naples avait demandé 3 fois l'arrêt du match, comme le prévoit le règlement. Il y a un règlement qui existe et qui dit que en cas de cris répétés racistes, alors il y a 2 choses. Il y a les cris, c'est un peu bête de dire comme ça, mais il y a les cris racistes, comme on entend la définition de racisme liée, par exemple, à la couleur de peau ou l'origine d'une personne. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle en Italie, Guillaume, le racisme territorial.
Oui.
Qui, là, concerne essentiellement, mais pas que, les Napolitains, qui sont, on va dire, un peu détestés de toute l'Italie du Nord et même un peu toute l'Italie, hein, avec des chants qui sont lamentables sur le Vésuve, etc., etc., qui souhaitent la mort des Napolitains, etc. Donc, dans ces cas-là, il y a un règlement qui existe et qui dit que le match peut être arrêté. Donc, alors, Ancelotti, c'est pas lui qui l'a fait directement, mais le staff de Naples a demandé à 3 reprises au délégué du match, donc de la fédération qui est présent sur le match, d'arrêter le match. Il n'a pas été arrêté. Ancelotti dit qu'il y a eu 3 annonces de fait par le speaker. Moi, j'en ai une en mémoire, c'est celle du début. J'ai pas l'impression d'en avoir entendu.
Je me demande s'il a pas plutôt expliqué le fait qu'il, toi, il a demandé 3 fois la suspension du match.
Parce que j'ai entendu le président de la fédération tout à l'heure qui disait il y a eu une fois une annonce au micro.
Moi j'en ai entendu une. Hein. Ouais, j'en ai entendu plusieurs. Moi, devant la télé, moi j'ai entendu qu'une. Et je pense qu'Ancelotti a expliqué. Le Napoli a demandé 3 fois la suspension du match. Et que je pense qu'en échange, ils ont eu le speaker. Mais voilà, comme tu l'as dit, moi j'ai entendu une fois. Mais après, je ne l'ai pas entendu une autre fois.
Alors, ce qui importe, on va essayer de généraliser, parce que c'est un problème qu'on a vu plusieurs fois en Italie. Hein. Ouais. C'est pas que ce mercredi soir lors d'Inter Naples, c'est pas que lié à l'Inter d'ailleurs, ou même à la ville de Milan. Hein, on l'a entendu partout, à Rome, enfin bref, un peu partout. Ça concerne les joueurs de couleur, ça concerne les joueurs des pays de l'Est, puisqu'on a le droit, au Zingaro, Ibrahimovic a eu droit quand il était de retour à Turin, enfin voilà.
On n'est pas que dans tous les petits, qu'il a fait.
Ça concerne vraiment le football italien de manière générale, et la Serie A comme la Serie B, comme la Serie C, etc. On arrive à un point un peu de non-retour, je pense, où on a l'impression que ça y est, c'est le moment où ça doit s'arrêter. Le problème, c'est que je suis pas sûr que les acteurs, de manière générale, allient les actes à leurs paroles qu'on a entendues hier soir. Par exemple, moi, une chose qui m'a gêné, c'est Ancelotti dit « la prochaine fois, on quittera le terrain ». Oui, mais faut le faire là, maintenant. Faut pas dire « la prochaine fois », parce que ça continuera, et la prochaine fois, ce sera encore « la prochaine fois, on le fera ». Le problème, c'est que s'il n'y a pas de gestes forts qui sont effectués à des moments clés, eh ben ça continuera. Là, le geste fort aurait été de dire, écoutez, on vous a prévenu, hein, ça fait 3 fois qu'on vous demande d'arrêter le match.
Oui,
vous faites rien. En plus, il avait bien fait les... Enfin, le staff, le club de Naples avait bien fait les choses. Écoutez, vous ne faites rien, vous prendrez vos responsabilités. Nous, notre équipe, on décide que ce n'est pas correct. Eh bien, en soutien à notre joueur qui est visé, et en réponse aux imbéciles qui font ces cris de singe, eh ben on quitte le terrain. Et là, en première ligne, ça aurait pas été le Napoli qui aurait été en première ligne de toutes les critiques. C'est les autorités, c'est la fédération, c'est la ligue qui aurait été visée par pourquoi ils l'ont pas fait eux. Et là, je trouve que Naples laisse un peu la porte ouverte, tu vois. Je trouvais ça très maladroit en fait de la part d'Ancelotti de dire la prochaine fois. Bah non, on peut toujours repousser les choses sans arrêt. Hein. La prochaine fois, ce sera la prochaine fois, puis la prochaine fois, puis la prochaine fois. S'il y a pas si on n'allie pas le geste à la parole, ça sera problématique pour moi.
C'est comme avait fait Milan, je sais pas si tu te souviens, avec Boateng. C'était un match amical face à la Pro Patria.
Oui.
Je m'en rappelle, où Boateng avait décidé de sortir du terrain, et ses coéquipiers en soutien l'avaient accompagné. Et le match s'était d'ailleurs arrêté. Et ça, alors après, c'est facile, c'était facile. Parce qu'on parlait de genre, c'était un match amical.
Oui.
Moi, je vais aller un peu plus loin. Alors, je vais poser une question un peu polémique, mais voilà, j'y vais à tatillon. Hein. Mais si, par exemple, le débat des bouges, j'y reviendrai après, hein, parce que c'est honteux et ça. Au début, je l'ai parlé sur Twitter parce que tu sais, j'avais pas envie.
Ouais.
Parce que vraiment, je suis lassé.
C'est pas un truc que t'as envie de souligner en plus.
Voilà, j'ai pas envie de faire la pub à ces mecs-là qui sont voilà, c'est toujours pareil. J'en ai vraiment marre de ces cons. Et après, tu vois, on passe toujours nous pour l'Italie est un pays raciste.
Ouais.
Alors que voilà, c'est vraiment des imbéciles et malheureusement, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais tu vois, imagine, hier, le Napoli, par exemple, gagne 2-0. Mmh. Est-ce que tu penses que même avec ces bouts, est-ce que tu penses que ils auraient eu la même attitude dans le sens où, alors oui, il y a le speaker, etc., mais est-ce que tu penses qu'ils auraient peut-être, est-ce qu'ils auraient, Ancelotti, auraient eu le même discours en disant, on aurait pu quitter le terrain? Alors que le Napoli, par exemple, menait 2-0.
Oui.
Voilà. Je veux juste pas faire d'hypocrisie, hein. C'est pas
vraiment. Non, je pense.
Mais tu vois, je veux vraiment soulever ça dans le sens où, je veux pas dire que c'est facile dans des moments comme ça, c'est faux. C'est un débat qui est global et je veux pas dire ça. Dans le sens où si le Napoli gagne 2-0, est-ce que tu as le même discours aussi dans le sens, on quitte le terrain, alors que toi, si tu le quittes, tu sais très bien que derrière, ça peut aussi se retourner contre toi.
Donc, mais moi, je pense que c'est même pas sûr que ça se retourne contre toi parce que la vague médiatique serait telle que je suis pas sûr que le, je suis pas sûr que, tu vois, le, ils oseraient appliquer le règlement de manière stricte. Parce que derrière, c'est eux qui prendraient vraiment une vague, une déferlante de la part des supporters, des joueurs. Puis après, on sait jamais comment ça peut aller, hein. Imagine Naples, là on voit par exemple tous les soutiens que reçoit Koulibaly aujourd'hui, et même depuis hier soir, ses coéquipiers, ses adversaires, Ronaldo, on a même eu un Français, Jules Koundé, sur Twitter, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je me suis perdu, du coup.
C'est
oui,
pas grave.
Avec tous les soutiens, etc., le problème, c'est que tu peux, voilà, tu peux jamais savoir où ça va s'arrêter. Parce que, imagine, les joueurs se montrent solidaires, les joueurs de Naples quittent la pelouse. Les autres joueurs, comme ils le font sur Twitter, Instagram, etc., apportent leur soutien au, à Koulibaly et à l'équipe de Naples.
Ils quittent la pelouse aussi.
Soit ils quittent la pelouse, soit ils décident de faire grève. Ça peut se faire aussi. Oui. Soit ils décident de rester immobiles. Par exemple, les 10 premières minutes d'un match ou de s'asseoir en protestation. On a vu ce genre de protestation déjà dans d'autres championnats de division, etc. Qu'est-ce que peut faire la Ligue derrière? Elle peut rien faire.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est pour ça. Moi, je trouve que Naples avait tout à gagner à le faire hier. Déjà, d'un point de vue humain par rapport à son joueur, parce que ça doit être quand même très compliqué de se prendre des cris racistes pendant 80 minutes. Je pense que nerveusement, ça doit être inhumain, voire même très compliqué de se gérer. Médiatiquement aussi, Naples aurait fait quelque chose, un grand pas pour essayer de résoudre ce problème, ce fléau du football italien. Et puis même, je pense que sportivement, il risquait pas grand-chose, très honnêtement, parce que les répercussions derrière auraient été terribles pour la Ligue.
Non mais écoute, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Que dire dessus? Dire de plus même, c'est vrai que le truc Ancelotti, ça aurait été bien, voilà, de repousser ce que tu peux faire aujourd'hui, voilà, c'est toujours compliqué, j'ai envie de lui dire, mais quand sera la prochaine fois, j'espère que ça recommence, tu vois, donc quand, où, comment, c'est vrai que, tu vois, il aurait fait hier, dans un gros match comme ça, je pense que la répercussion que ça aurait pu avoir, l'indignation générale, c'est vrai que...
Dis-toi en plus que tu vois, il y avait que ça comme match hier soir. Il y avait pas de Liga. Oui. Il y avait pas de Ligue 1. Oui. Il y avait pas de première, ici, il y a peut-être la première Ligue à 20h30. Je me souviens plus.
Oui.
Mais il y avait, en gros, il y avait un match éventuellement. Donc, ça veut dire que c'était visible dans le monde entier, ce genre de choses.
Mais c'est vrai que le carton rouge de Koulibaly, pour le coup, autant il se discute pas par rapport à la faute qui est un peu, voilà, un peu légère et par rapport aux applaudissements. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il arrivait 80 minutes où c'était vraiment fait, elle a fait insulter, il a entendu les cris tout le match, parce que c'est vrai, comme tu disais, sur Sky, on entend très bien les bruits du stade. Et pour le coup, à chaque fois qu'il ratait une passe, ou qu'il gagnait un contraste, ou qu'il gagnait un duel, constamment, voilà, il y avait ses bouts derrière. Et c'est vrai que je pense qu'à la fin, il a même craqué. Au-delà de la faute, qui est un peu légère, surtout sur les applaudissements. Parce qu'en plus, ça lui ressemble bien pas beaucoup. Donc c'est vrai que, voilà, moi, je pense aussi que ce carton rouge découle de ça. Après, malheureusement, là, voilà, on peut peut-être parler aussi des... Cette parole du préfet de police de Milan.
Oui, vas-y.
Qui a dit que bah il pensait il veut exclure. Il veut plus voir la Curva dell'Inter. Alors je crois que c'est juste qu'il a dit au 31 mars.
Oui, c'est ça.
À domicile, et il a dit qu'il voulait les suspendre aussi pour les déplacements.
Ouais, jusqu'à la fin de la
donc,
saison.
Voilà. Donc là on parle quand même, là on est au-delà du sport, on est quand même chez le préfet de police. Il y a aussi le président de la Fédé qui a parlé, où il parlait peut-être d'une suspension du championnat. Donc c'est vrai que là c'est témoin, faut pas oublier aussi qu'il y a eu un mort.
Oui.
Il y a eu dans les incidents qu'il y a eu hier entre les supporters. Je crois qu'il avait, c'était un homme de 35 ans, donc
qui a été renversé par une voiture, je crois.
Voilà, renversé par une voiture. Et sur Sky tout à l'heure, tu vois, bah j'ai regardé par exemple le JT de 13h avant qu'on prenne l'antenne. Bah c'est toi, ils ont même pas parlé du match. Ils ont parlé des cris racistes et ils ont parlé de voilà du drame qui s'est passé hier. Donc
il y a aussi eu quand même 4 supporters du Napoli qui ont été agressés au couteau. Hein. Il y en a un qui a fini à l'hôpital et 3 qui ont été soignés sur place.
Et malheureusement, c'est vrai qu'Ancelotti a aussi eu la même phrase qu'Allegri par rapport aux arbitres. Alors, c'est deux choses différentes. Hein. Mais il disait que l'Italie grandira jamais et ou même la Serie A si on continue comme ça. Après, moi, ces propos, voilà, moi, je suis comme toi. C'est vrai que s'il l'avait fait hier, plutôt que de le dire après, j'ai pas envie de dire que c'est simple de le dire après. Mais tu peux dire, bah, si, on avait quitté le terrain, si, non. T'as demandé une fois, deux fois, trois fois. Ouais, on t'a pas écouté. Voilà, tu demandes à tes joueurs de venir avec toi. Ils vont t'écouter, ils vont venir. Et je vois pas ce que peuvent faire les joueurs de l'Inter de plus.
Voilà. Pour moi, il doit, dans la lutte contre le racisme, en fait, il doit pas y avoir de contexte, d'environnement particulier, de choses, d'éléments déclencheurs.
Oui, ni d'équipe, de
Voilà, exactement. Ça doit être fait, point barre. Voilà, ça doit être fait, point barre. Et on saisit la première occasion pour le faire. Et parce que sinon, on remettra toujours la chose à plus tard.
Et surtout, surtout qu'il y a, tu vois, ceux qui, on va là, qui ont fait ces cris, alors, il va être quand même, enfin, on va dire plusieurs centaines peut-être. Je sais même pas si on va être repéré, tu vois, par des caméras. Parce que je crois pas qu'ils sont sur la
position.
Moi qui y vais souvent, honnêtement, j'en ai jamais trop vu. Et malheureusement, si ça se répète, c'est qu'on n'arrive pas aussi à extraire ces individus, à les interdire de stade. Et malheureusement.
Mais c'est pour ça que les groupes de supporters ont aussi une responsabilité, c'est que il faudrait aussi qu'ils arrivent d'eux-mêmes à faire le ménage au sein de leur groupe. Sauf que ça, c'est ultra compliqué parce qu'il y a un mode de fonctionnement, une mentalité, un mode de vivre le tifo qui est particulier et que ça se passera jamais comme ça. Mais c'est vrai que dans ce fléau-là, pour moi, il n'y a pas un responsable en particulier. Tout le monde doit se mettre autour d'une table et chacun doit faire son analyse, son autocritique, déployer des moyens pour lutter contre ça. Et ça peut être aussi les clubs, je suis désolé. Pour prendre un exemple que je connais bien, dans la courbe à soude de la Roma, il y avait un groupe d'extrême droite qui s'affichait tranquillement en bas de la courbe à soude. Je suis désolé, le club avait les vidéos les bandes de vidéosurveillance.
Ouais.
Elle doit être capable de les voir, de les exclure de stade, et ces mecs-là ne doivent plus revenir. Je suis désolé, il y a des choses, des croix celtes, des croix gammées qui ont été déployées, etc. Ça ne doit pas exister. Je suis désolé, c'est des choses qui ne doivent pas arriver dans les stades. Et les clubs ont une responsabilité, les supporters ont une responsabilité, les autorités ont une responsabilité, autorités administratives, police, etc. Et aussi les autorités du football. C'est comme lutter contre le racisme lors des matchs internationaux où après la FIFA va mettre 1000 euros d'amende. Voilà. Après la Ligue des Champions, des mecs qui reçoivent une banane, ils vont prendre 20 000 euros d'amende. C'est pas possible.
Il faut des solutions radicales. Il faut arrêter d'être dans l'hypocrisie. Ou tout à l'heure, j'écoutais le maire de Milan qui disait qu'il avait honte et qui s'excuse au nom de la ville. C'est très bien. Mais il disait, par exemple, ce serait bien de donner le brassard à Zamora lors du prochain match de l'Inter. Oui, c'est beau.
C'est un symbole, mais c'est pas ça qui va participer
symbole,
à la lutte contre le racisme.
Exactement. C'est un peu d'hypocrisie aussi de faire ça. C'est pas ça qui va te changer. Les imbéciles qui vont dans les stades, il faut des solutions drastiques. Il faut les extraire du stade. Il faut les bannir. Il faut des solutions fortes. Il faut arrêter de tourner autour du pot, comme tu dis. Il y a la répercussion qu'aurait eu en prime time le fait que Napoli quitte le terrain. Ça aurait été, je crois, une première. Hein, parce que moi, j'avais connu ça. Je te dis, le coup mis dans les formations amicales, ça a déjà fait beaucoup parler. Mais c'est vrai que là, hier, il l'aurait fait. Je te laisse imaginer les unes des journaux aujourd'hui. Ça aurait été dans les plus hautes sphères même de la Fidji, de la Serie A, chez tous les présidents, il y aurait eu des crises d'urgence, enfin c'est vrai que ça aurait été quand même plus important. Là, j'ai l'impression quand même qu'on en parle beaucoup, mais beaucoup dans le sens légitimement, hein,
oui.
Je suis content qu'on en parle aussi, hein, dans le sens où il faut vraiment que ça explose, et il faut aussi, voilà, faut mettre un point final à tout ça. Quelle solution, ça c'est à eux de les trouver, mais il faut vraiment que ça s'arrête, parce que, voilà, après on parle plus des matchs, on parle plus de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dommageable pour tout le monde, donc il faut vraiment des solutions au plus vite.
Voilà, et puis moi je trouve que les autorités en Ligue, Fédé, etc., justice sportive, ont toujours cette capacité à mobiliser leurs ressources pour sanctionner les supporters qui allument des fumigènes et mettent 20 000 euros d'amende à la Samp, à la Roma, à Milan, à Cagliari, etc. Bon, par contre, quand il s'agit de racisme, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc, moi, j'aimerais bien que les ressources et l'énergie qui sont déployées pour des petites choses comme les fumigènes, qui pour moi sont un non-événement et qui font justement partie du paysage foot et de l'ambiance foot, bah, soient déployées sur des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes dans le milieu du foot. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant.
Là, je vous espérais que je pense qu'au niveau sanction, qu'on va rester niveau amende. Je pense que pour le coup,
malheureusement,
tout ce qui se dit, je pense. Tu crois? Non, là, je pense qu'il va y avoir quand même une fermeture de la courva ou quelque chose. Mais C'est là je pense que bah, j'espère du moins. Après tu vois ils vont taper sur une courva qui voilà, ils sont pas tous racistes évidemment, et malheureusement c'est une minorité, mais du moment qu'on n'arrivera pas à les extraire, et bah tout le monde en prendra pour cette minorité, donc c'est vraiment dommageable.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le sujet Inter Naples, malheureusement donc très peu de sportifs et beaucoup de d'à côté. Je te propose de passer au cinquième sujet qui est le 11 de la mi-saison des auditeurs de Calcio et PP. On vous a donc demandé de voter sur Twitter pour les joueurs les plus performants du début de saison, même de la mi-saison quasiment, en Serie A.
Ah, 11 pas trop mal. Hein.
Ouais. Le 11 il est plutôt pas trop mal et il s'est dessiné assez facilement. Il s'est dessiné assez
facilement. Oui, j'ai vu, c'était quand même des pourcentages assez hauts. Hein.
Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de débat. Et au début, je m'étais dit, on va les comparer avec les nôtres, mais en fait, moi, j'ai le même exactement que les internautes, donc il n'y aura pas trop de débat. Donc, on va le dérouler tranquillement et puis commenter assez rapidement chaque choix. On avait donc dans les buts le choix entre Chesney, Luigi Zeppe, Odero de la Samp et Samir Handanović. Et c'est donc Samir Handanović avec 46% des votes qui a été élu meilleur gardien à la mi-saison.
Moi, j'ai hésité avec Chesney, je vais pas te mentir, parce que la qualification de Buffon, c'était pas simple. Mais moi, j'ai toujours trouvé bon depuis qu'il y a la Juve. Il a vraiment passé on en a parlé plusieurs fois, mais il a vraiment passé le cap. C'est vraiment un gardien solide. Parfois, je vais pas te mentir, quand il y avait Buffon, je trouvais même meilleur Chesney. Donc, moi, j'ai hésité. Mais après, Handanović, on avait parlé il y a pas longtemps dans un podcast.
Oui.
Toujours décisif. Il a toujours deux, trois petites erreurs, mais il reste quand même depuis bien longtemps à l'Inter, déjà dans la période la plus sombre. C'était lui qui sauvait les meubles avec Icardi. Mais, honnêtement, Handanović, il a vraiment impressionnant, notamment sur sa ligne. Il fait beaucoup, beaucoup d'arrêts réflexes. Donc, il fait gagner beaucoup de points à l'Inter. Il en fait pas perdre beaucoup.
Tu viens de dire l'expression, tu sais, ce qui m'a fait voter, enfin, pencher, entre guillemets, pour Handanović, c'est le fait que, contrairement à Chesney, alors pas contrairement, mais en tout cas beaucoup plus que Chesney, il rapporte des points directement à son équipe. Et ça, pour moi, c'est capital dans le rôle de gardien de but.
Il y en a qui t'en font perdre aussi.
Oui, aussi. Ça, c'est un autre débat. Alors,
Olsen aussi aurait peut-être pu être, tu vois, elle est bon.
Pas
il
encore.
Il fait quelques boulettes, mais c'est quand même une belle surprise.
Ouais, il est bien revenu après un ou deux matchs où on l'accusait de prendre des buts, mais bon, c'est pas parce qu'un gardien prend un but qu'il est coupable sur le but, déjà. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis il a quand même fait aussi beaucoup d'arrêts intéressants, le match contre la Juve et
la Juve.
Et là, il a fait quand même un paquet d'arrêts. Là, il était bon encore contre Sassuolo. Bon, il peut pas empêcher le dernier but, mais juste avant, il gagne un face à face avec Di Francesco qui l'allume à 3 mètres de lui. Donc bon, c'est encourageant pour lui, mais il est encore en dessous des autres, je trouve. Donnarumma commence à assurer un peu plus de régularité, à reprogresser à nouveau. Donc c'est sans doute qu'à la fin de saison, il y aura des peut-être des changements dans les quatre nommés pour ce poste. Latéral droit, bon là on va faire assez rapide, c'est un plébiscite. João Cancelo, Paul Lirola, Nicolas Milenkovic, Manuel Lazzari, 87% pour João Cancelo. Bon, pas grand-chose à dire.
Bah mon pauvre chouchou. Ouais. Il finit combien Lazzari? Je sais pas si t'as les chiffres.
Il finit troisième Lazzari.
Et troisième Lazzari. Ouais. Moi j'aime bien Lazzari, mais c'est vrai que bon, quand tu veux le même poste. T'as l'impression parfois que c'est deux postes différents, tellement comme Cancelo survole sur la partie de saison, faudra pas s'arrêter beaucoup sur Cancelo. Hein.
Il rappelle un peu Dani Alves dans la façon dont il participe aux constructions offensives de la Juve, sauf que lui n'a quand même pas la relation privilégiée qu'avait Dani Alves avec Messi. Il n'a pas cette relation avec un attaquant de la Juve en particulier, mais il est quand même très très décisif. Et en plus, il peut même jouer à gauche, donc c'est vraiment
ce genre de latéraux qui fixe, qui joue la tête haute, qui ont un pied. C'est vrai que moi, qui regarde souvent Milan, je veux pas te mentir qu'il y a entre Rodriguez et Calabria sur les côtés, qui fixe pas beaucoup, qui arrive pas à gagner beaucoup de face à face avec leur vis-à-vis. C'est vrai que voir Cancelo à côté, t'as l'impression quand même que c'est un autre football et une autre catégorie. Ça rappelle un peu, alors, pour les plus nostalgiques, tu vois, à l'époque, les Cafu, par exemple, tu vois, ce genre de joueur qui marquait d'ailleurs beaucoup, Cafu. Enfin, c'est vrai que moi, ce genre de latéraux, comme Lazzari d'ailleurs, hein, dans une autre dimension un peu moindre, voilà, ces latéraux qui fixent, qui sentent, qui participent, c'est vraiment plaisir. Mais c'est vrai que Cancelo, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait qu'il ait été élu meilleur latéral droit. Enfin, latéral droit. C'est même plus ample que le simple rôle de latéral droit, parce qu'il fait tout. Mais c'est vrai que Cancelo, honnêtement, il n'y a pas de débat à avoir sur lui.
Alors, pas trop de débat non plus sur le poste de latéral gauche. Alexandro avec 69% des votes devant Asamoah 11% et égalité entre Biragi et Mario Rui qui ont 10% chacun. Ouais. Bon, un peu la même chose, hein, c'est le même style d'attaquant, de joueur techniquement très sûr, de capable de faire des décalages, de participer au jeu, d'apporter le surnombre, de dédoubler le poste, d'être un bon centreur également. Voilà, c'est panoplie complète aussi également pour le latéral gauche de la Juve.
Ouais.
On passe au
centraux.
Alors, central numéro 1, axe droit, Milan Skriniar arrive en tête avec 47% des votes devant Leonardo Bonucci, 29%, Kostas Manolas, 17% et Francesco Acerbi, 7%.
Manolas, c'est dommage parce qu'il revient bien en ce moment.
Ouais.
Il y a eu un peu plus de temps. On a vu, il aurait peut-être eu un peu plus de pourcentage. Mais Skriniar, honnêtement, voilà, hier, entre lui et Koulibaly, il avait quand même deux des meilleurs centraux d'Italie.
Ce qui se fait de mieux.
Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur Skriniar, solide. Bad. Alors, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve très drôle dans sa conduite de balle. Il a vraiment une conduite atypique.
Ouais.
Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il a vraiment une course qui est très spéciale.
Il fait un peu désarticulé comme bonhomme, mais.
Oui. Mais très solide.
Ouais.
Très solide, très fort, puissant. Il gagne beaucoup de duels. Parfois, là, si je peux le faire un petit reproche, parfois il est un peu trop, comment dire, tu vois, il contient pas beaucoup. Parfois
ouais.
Il arrive un peu en retard, il fait faute, des fautes parfois un peu bêtes. Donc ce serait bien que des fois il se canalise un peu. Mais sinon, oui, pas étonnant que voilà, c'est un des meilleurs centraux d'Italie, axe droit. C'est parfait pour coller avec le monsieur qui va sur la gauche.
Exactement, tu parlais de lui justement dans cette description. Kalidou Koulibaly arrive en tête avec 65% des votes. Devant Giorgio Chiellini, 22%, Alessio Romagnoli, 13%, et le malheureux Joachim Andersen, 0%. Je suis un peu triste pour lui parce qu'il réalise une grosse saison avec la Samp. Il est vraiment très bon, mais bon, devant lui, quand t'as Koulibaly et Chiellini, c'est un peu compliqué de gratter des voix. Bon, Koulibaly, que dire, hein, la puissance technique, assure des premières relances. Hier, le nombre de passes intéressantes qu'il fait pour éliminer la première ou la deuxième ligne de pressing de l'Inter... Même capable de porter le ballon, de solliciter des 1-2, enfin c'est vraiment...
Il propose même, ouais, comme tu disais, j'ai l'image de lui hier, c'est qu'il part dans le couloir.
Il est gauche.
Exactement. Et c'est vrai que c'est dommage aussi pour Chiellini, hein, parce que Chiellini fait aussi une grosse saison. Hein.
Ouais.
On se souvient de son match contre l'Inter où il avait été énorme. C'est vrai que Chiellini, voilà, c'est compliqué quand même de choisir entre les Koulibaly. Après Koulibaly, c'est vraiment, moi je l'ai mis hier, c'est quand même monstrueux, hein, dans le volume de jeu, dans ce qu'il apporte, la puissance, comme tu dis. Alors, on va pas se répéter, mais Koulibaly, c'est l'un des meilleurs centraux en Europe sans aucun problème.
Alors, au niveau des milieux de terrain, le premier sondage pour les milieux de terrain, sans aucune discussion possible, alors qu'il a fait sans doute l'un de ses plus mauvais matchs de la saison hier soir, c'est donc Alan qui arrive en tête avec 85% devant Zielinski 8%, Alfred Duncan 4% et Denis Praet 3%. Alors oui, figure-toi que j'étais quand même très étonné de voir qu'il avait pris 6,5 dans la Gazzetta ce matin. Je me demande comment c'est possible. Non, il a été catastrophique hier soir, mais malgré tout, il fait une demi-saison vraiment impeccable. Et puis en plus, là, on parlait que de Serie A, mais si on regarde aussi en Ligue des Champions, c'est très costaud.
En Ligue des Champions contre le PSG, tu te rappelles, il a fait un match énorme. C'est vrai qu'hier, bon, voilà, on reste un peu sur un match compliqué où il a perdu beaucoup de ballons, mais sinon, Alan, c'est très solide. Et, voilà, comme tu dis, on l'a vu surtout même sur la place européenne, contre Liverpool, contre le PSG, il est à la hauteur, donc c'est vraiment un joueur complet, c'est un joueur qui peut aller très très loin.
Alors on aura un milieu de terrain très équilibré et très intéressant, qui peut à la fois avoir le ballon et ne pas l'avoir, construire lentement ou se projeter rapidement. On a donc le Regista, Miralem Pjanic, avec 56% des votes devant Blaise Matuidi 30%, Marco Benassi et Stefano Sensi 7% chacun. Bon, Pjanic, même si, encore une fois, il avait eu un match compliqué contre la Roma, globalement, c'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe aussi, capable de tout faire avec le ballon au pied, quarterback caché entre la défense et les milieux de terrain. Un soupçon supplémentaire d'expérience depuis qu'il est à la Juve et d'intelligence de jeu, qu'il n'avait pas toujours à la Roma, et il réussit un peu plus à se canaliser, et à un peu plus protéger sa défense, donc ça c'est tout bon.
Oui, pas grand chose à rajouter, hein. Pjanic, c'est très fort, très solide, voilà, même dans la passe longue, par rapport à toi, il y a Brozovic aussi qui fait un bon début de saison, mais
T'es en train de spoiler le sondage.
Oui, voilà, je te place comme ça. T'as vu, t'as remarqué.
Allez, Brozovic.
Une petite transition.
Voilà, Brozovic arrive en tête avec 50% devant Pellegrini 28%, Kessié 19% et Albin Ekdal 3%. Donc, Brozovic, tu voulais nous parler de ce.
Un peu déçu pour Bilia. Hein, qui est
qui ça,
ton chouchou mais non, Brozovic, bah oui, Brozovic qui a pris en main l'Inter cette saison. On a parlé plusieurs fois, donc on va pas se répéter, mais après des années compliquées où il avait été sifflé, il est quand même sur le point de rupture avec les supporters, et bah cette année il a réussi à prendre le jeu en main. Moi, ce que j'aime chez lui, et je l'ai encore vu hier, c'est qu'il se propose tout le temps. Il donne toujours une solution au passeur ou à son défenseur. C'est vraiment très très fort cette année. C'est quasiment l'homme en plus avec Icardi et Andanovic aussi, mais c'est vrai que Brozovic, si tu me fais au milieu une paire Brozovic-Pjanic, c'est quand même assez
solide.
C'est
plutôt pas mal, donc, avec Alan ouais. En plus pour gratter les duels et tout.
C'est entièrement mérité pour Brozovic qui réalise un gros début de saison avec l'Inter.
Alors on va passer maintenant aux attaquants. Alors là c'est un peu plus délicat parce que il y a beaucoup d'attaquants axiaux qui sont très bons cette saison, mais il y a beaucoup d'ailiers qui sont en souffrance. C'était un peu compliqué de trouver beaucoup d'ailiers qui se mettent en évidence. Par exemple, la Roma, il n'y a pas vraiment un ailier. Il y a El Shaarawy, mais bon, il est blessé depuis quelques semaines maintenant, et c'est compliqué. À l'Inter, Perisic est pas dedans. Keita Balde, voilà, non plus. Donc, il y a Politano, mais c'est pas non plus le meilleur joueur du championnat, même s'il est très bon, etc. À la Lazio, ça joue pas avec des ailiers offensifs. Au Milan, bon, il y a Souza, mais derrière, c'est le désert. À la Juve, Douglas Costa, Dybala, quand ils sont alignés sur le côté, il faut pas partie du top de cette demi-saison non plus. Donc c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'attaquants axiaux. Donc là, ça va être un peu. J'aimerais pas être l'entraîneur de cette équipe. On a donc Cristiano Ronaldo, Piatek et Mauro Icardi qui arrivent en tête de ce sondage. Donc ça va être compliqué de les aligner tous ensemble. Mais bon, on fera appel à un maître tacticien pour trouver des moyens de jouer ensemble. Donc Cristiano Ronaldo arrive devant Quagliarella, Mandzukic et Insigne, qui termine dernier de ce vote-là. Hein. Insigne, c'est un peu étonnant, même si on regarde que les dernières semaines, c'est compliqué. Piatek arrive devant Souza, Politano et El Shaarawy. Et puis Icardi arrive devant Mertens, Immobile et Milik.
Oui, c'est quand même pas trop mal comme attaque.
Disons qu'on a de quoi marquer des buts. Après, il faudra alimenter les attaquants. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Après, forcément, tu vois, les dernières semaines jouent beaucoup. Souza a pas été bon ces dernières semaines, on voit plus beaucoup. Il a été aussi blessé. Il signait hier, par exemple, il a été vraiment pas bon. Ouais. Hier, je l'ai vraiment trouvé en dessous.
Très mauvais.
Quagliarella, c'est dommage. Quagliarella, c'est dommage parce que vraiment, encore une fois, cette année, il a prolongé d'ailleurs son contrat. Mais hier, il met un but, encore une fois, une espèce d'aile de pigeon magnifique, il frappe un magnifique coup franc sur la barre. C'est vrai que Quagliarella, rien qu'au mérite, voilà, il aurait pu aussi être dans ce 11. Mais voilà, quand t'as Ronaldo, Piontek et le dernier Icardi, c'est compliqué, surtout qu'Icardi, au-delà d'être un vrai buteur, c'est déjà aussi un leader, c'est un homme avec des coronets, si je puis dire. Et c'est vrai aussi que même dans les déviations, dans comment il fait jouer l'équipe, on peut pas dire qu'Icardi c'est vraiment uniquement un œuf, soit un œuf pur qui marque dans la surface. Non, ouais. Enfin, je trouve vraiment qu'il s'améliore même dans la façon qu'il a de faire jouer ses coéquipiers. Donc, on l'a vu aussi en Ligue des Champions qu'il avait réalisé une belle phase de groupe. Malheureusement, sur la qualif. Ouais, il a quand même marqué contre le Barça, contre Tottenham aussi.
Oui.
Donc voilà, donc c'est mérité. Puis Ronaldo, Chiellini hier, je t'en parlais tout à l'heure, Chiellini, j'ai regardé son interview d'après-match où il disait, on a été mené trois fois cette saison, contre Empoli, hier contre l'Atalanta, et Napoli. Et il disait à chaque fois, c'est Ronaldo qui nous a sauvés. Donc, voilà, ça résume un peu tout, Ronaldo. On en parlera tout à l'heure aussi parce qu'on a vu qu'on a des questions dessus.
Ouais.
Et voilà, Ronaldo, Piontek, Icardi, c'est l'attaque de cette première partie de saison.
Bon, on n'a pas demandé pour l'entraîneur, mais j'imagine que ça aurait été un plébiscite pour Max Allegri.
Donc oui,
on peut se passer de sondage. Donc voilà cette équipe, je vais la rappeler. Dans les buts, Andanovic, à droite de la défense, Cancelo, à gauche de la défense, Alexandro, tout de la Juve. Skriniar et Koulibaly en défense, au milieu de terrain, Alan, Pjanic et Brozovic, et devant, Ronaldo, Piontek et Icardi. On va passer à la dernière rubrique de ce podcast, qui fait déjà 1h06, mais bon, on vous donne un peu de matière, on reviendra que... je crois que c'est le 7 janvier qu'on a prévu de faire le premier podcast sur un bilan de la mi-saison du coup. Donc, vous aurez une dizaine de jours pour ingurgiter 7h30 de podcast. Et puis, comme on l'avait dit pour Noël, hein, si jamais votre oncle qui n'aime pas le football, il vous sort que votre cousin qui est fan de rugby ou fan de hand, ce sport UNSS,
d'ailleurs,
dit que les footballeurs sont trop payés, eh bien, vous pourrez vous isoler, écouter notre podcast.
Tu sais, je suis prêt à lancer un sondage sur Twitter. Parce que, alors, pour tout avouer aux auditeurs, normalement, je n'appartiens pas en vacances. Voilà, on fait une pause. Bon,
par rapport chanceux, vénard.
Chanceux, voilà. C'est mes premières vacances depuis plus d'un an et demi. Enfin, bref. Et du coup, je vais partir en Italie.
Ah. Justement.
Et je devais partir samedi. Et sans vous mentir, je devais faire une halte à Milan. Et je me suis dit, bon, à Milan-Spal, pourquoi pas aller voir le match, tu vois, en détente, sur ma route, pourquoi pas. Mais du coup, maintenant, bon, j'ai quelques doutes, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce que vraiment je vais y aller pour voir ça? Donc, tu vois, j'aimerais avoir la question, savoir si je dois aller voir Milan-Spal. J'ai besoin de la réponse des auditeurs.
Et après, si tu dois aller voir ce match, on fera un sondage pour savoir quelle pancarte tu exhiberas dans les travées de San Siro pour faire de la publicité à Calcio et Pepe.
Est-ce que toi, tu iras à ma place? C'est la vraie question. Est-ce que toi, tu iras?
Oui.
Oui, tu irais?
Oui. Bah, rien que pour assister à la dernière de Gattuso.
J'étais sûr. tellement prévisible.
Bien sûr.
T'es tellement prévisible. Mais écoute, beaucoup prendra des internautes. S'ils me disent d'y aller, j'irai.
D'accord.
S'ils me disent de ne pas y aller, j'irai dans une pizza et dans une pizzeria manger une belle margarita.
Voilà. Bah, écoute, et puis peut-être que d'ici là, Gattuso sera viré et tu le croiseras à la pizzeria.
Et peut-être qu'il fera les pizzas d'ailleurs.
Exactement. Comme un certain Ciro Ferrara.
Exactement.
Autre débat. Guillaume, on commence les questions. Est-ce que tu les as sous les yeux?
Alors, le problème, c'est que j'ai fait plusieurs tweets. Du coup, moi, je propose que tu me prennes le premier initial et moi, je prends le dernier.
Tu vas voir. Que je prenne le premier initial et que je prenne.
Regarde, moi, j'ai mis. On enregistre à 13h, donc là, tu peux prendre celui-là.
Ouais.
Et après, j'en ai mis un autre où j'ai mis. On enregistre actuellement. Balancer aux questions. Et moi, je vais prendre celui-là. Voilà.
Allez.
Donc, tu commences ou je commence?
Allez, commence.
Je commence. Alors, première question de Joxymo, je cite son arrobas, son hashtag, et il dit « Milan doit-il se débarrasser de Çalhanoğlu ?»
La réponse est non, certainement pas. Milan doit mettre dans les meilleures conditions l'un de ses meilleurs joueurs, ça c'est fondamental. Après, évidemment qu'il est décevant même quand il n'est pas aligné à son poste, on peut pas le nier, qu'il manque sans doute aussi un peu d'état d'esprit de grand club pour le moment, je trouve, qui se laisse un peu aller, qui n'a pas la gnaque nécessaire, mais le vendre certainement pas.
Ouais,
pour
ma part. Je suis d'accord, très en dessous aussi, et c'est aussi de sa faute. Après, c'est celui aussi qui tente le plus, donc c'est aussi peut-être, pour ça aussi qu'il s'est beaucoup critiqué, mais il tente au moins, il essaye. On sait quand même le joueur qu'il était avant à Leverkusen, c'est quand même pas un mauvais joueur. Techniquement, on parle quand même, il est très solide. Donc moi, je pense non. J'aimerais bien l'essayer vraiment en numéro 10, par exemple, dans le cœur du jeu.
Ouais.
Voilà, il a aussi. Voilà, on peut aussi lui reprocher beaucoup de choses cette année. Hein. Il n'est pas exempt de tout reproche. On sait qu'il y a des problèmes aussi familiaux, avec sa compagne, avec qui s'est séparé. Gattuso a répété souvent en conférence de presse, où il disait qu'il avait un peu de mal à s'en remettre. Donc c'est un peu compliqué, mais non. Moi, je donnerai encore une chance, et je pense vraiment qu'avec un entraîneur qui pourrait le faire jouer dans les meilleures conditions, je pense que Çalhanoğlu pourrait s'imposer à Milan. Donc la réponse est non.
Question suivante.
Vas-y.
Ah, ça monte maintenant.
C'est moi. Ah pardon. C'est moi. Bah, une chacune.
Allez, vas-y, encore toi, et puis je lance le thread du coup.
Alors, deuxième question. On est encore sur Milan. Penses-tu que Gattuso. Alors, c'est Ange C, l'arrobas Garcimore, qui dit penses-tu que Gattuso va démissionner pour qu'il respecte sa parole donnée?
Non.
La réponse est non. Malheureusement, moi aussi, je suis romantique, mais Gattuso, là, c'est un entraîneur comme tout le monde. Il a son poste, il a son bon, il a son salaire de 2 millions par an. Il faut arrêter de croire qu'il avait dit. Il avait dit si je serais le problème du Milan, je démissionnerai. Mais non. On vit plus dans le monde des bisounours. Il a prolongé jusqu'en 2021. Il tient son banc. Il a son staff. Il a une famille comme tout le monde. Alors il a d'avoir certainement pas mal de sous, mais il tient aussi à son banc. Donc il faut arrêter de dire que évidemment que Gattuso est très attaché à Milan. Mais de là à ce qu'il parte et qu'il démissionne, non, il partira pas. Voilà, il va rester et à moins qu'on le mette à la porte, il a encore dit, il restera jusqu'au bout.
Alors une question de Romino 7, Romino 7 ou Romino 7,
oui.
On ne sait pas encore. Quelle solution pour contrer le racisme en Italie? Eh bien là, je vais te dire, écoute le podcast. Voilà.
Oui,
nous en avons pas mal parlé. Une question de Monsieur Mehdi. Bon, j'essaie de trouver la moins provocatrice. Ou notre ami Mehdi, supporter de la Roma. Under, sa coupe de cheveux est-elle normale? Alors, il faut quand même que j'avoue un truc, c'est que je me suis fait la réflexion pendant le match, pendant un temps mort. Je me suis dit, c'est quoi cette coupe de cheveux? Et autre fait important à la Roma, c'est que c'est très difficile de distinguer Zaniolo et Chic quand ils jouent ensemble, car les deux sont gauchers, assez longilignes, à peu près la même coupe de cheveux, donc c'est très très compliqué, les mêmes chaussures. Donc je propose que l'un des deux choisisse une coupe un peu plus 2.0 avec des dégradés et des petits dessins, des sculptures dans la tête. Allez, j'en enchaîne une troisième. Manolas, meilleur défenseur du monde mais aussi de l'univers, Monsieur Mehdi, non, hein, même si tu sembles beaucoup l'apprécier. Robbie Gallio, Dio Nerazzurro, son pseudo
Twitter. De l'Inter, perspicace.
Quel milieu pourrait arriver si Nainggolan venait à se faire vendre, donc à être vendu?
En janvier?
Oui.
Bah, en janvier, il partira pas, Nainggolan, donc la question ne se pose pas.
Voilà.
Nainggolan ne partira pas en janvier, donc.
Marotta a expliqué, en tout cas hier, que oui, ouais. C'était pas.
Non, il a été sanctionné, mais c'est quand même le gros coup l'été dernier, donc non. Nainggolan ne partira pas, donc pour le moment, la question se pose pas. On se la reposera l'été prochain quand peut-être que Nainggolan sera vendu, mais ce serait quand même très étonnant parce que voilà, je pense que l'Inter va continuer à miser dessus malgré les petites frasques de notre ami Raja.
Allez, à ton tour.
Alors moi, j'ai son excellence avec un arrobase Antoine Alexandre 2 qui dit un renfort au poste de latéral droit pour l'Inter est-il nécessaire? Bah, avec Versaïco d'Ambrosio.
T'es plutôt bien fourni, je trouve, donc j'irai pas chercher sur ce poste-là.
Moi non plus, je pense pas que c'est là où il y a plus de lacunes, donc non, Versaïco était à côté l'été dernier, donc non, je pense pas que c'est le poste qui doit être prioritaire.
À choisir, j'irais plutôt prendre un ailier pour ma part, mais.
Oui, pourquoi et oui, voilà. Oui. Evan Kandreva, c'est ça que t'as signé?
Par exemple.
Alors, une autre question. On va savoir sur Gattuso, on a déjà fait. Lui disait, est-ce qu'il faut garder Gattuso en tant que coach adjoint? C'est un nouveau coach qui arrive.
Ça paraît compliqué quand même.
Ouais, parce que lui, il a quand même un minimum de dignité, un minimum d'ego. Ouais. Donc honnêtement, je pense pas qu'il se dira, je me mets en tant qu'adjoint ou même retourner à la Primavera.
Ah, c'est donc, un peu comme si tu disais à un président de la République, bon, écoute, t'es plus président, mais t'es ministre des Transports Maritimes. Bon, bah, certes, mais non, hein, non merci.
C'est vrai. Alors, son excellent, toujours pareil, qui disait Kandreva, l'Inter doit-il se débarrasser de Kandreva? On a parlé tout à l'heure. Yoann, il disait pour.
Oui, plutôt.
Oui, on dirait pas non. Ouais, on dirait
même pour non. Le joueur, hein, je veux dire, après, il faudra faire un choix, c'est-à-dire, le choix, c'est de viser un niveau un peu plus bas ou alors partir à l'étranger, mais Kandreva, dans une équipe de milieu de classement, s'éclaterait sans doute plus que à l'Inter aujourd'hui, quoi.
D'ailleurs, on sait qu'il y a un club en rouge et blanc, qu'on surnomme le club du Rocher, qui voulait l'été dernier, par exemple.
Alors, je suis pas sûr qu'il revienne taper à la porte maintenant, mais
je pense pas.
Mais et voilà, même, tu vois, je pense à un club comme Parme, ou même s'ils ont pas les moyens, tu vois, mais de ce calibre-là, tu vois, un club où il pourra être titulaire et apporter pas mal de choses.
Alors, d'autres questions, les dernières sur ce tweet-là, on demande beaucoup sur AC Milan Silvio, Diego Lito qui demandait, Wenger et Jardim peuvent-ils être l'après Gattuso? Wenger, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire que ça peut être une piste, parce que Gazidis, tu peux pas savoir, alors après...
Il paraît que c'était pas très bien terminé quand même entre les deux, donc...
Après, je pense que c'est quand même une piste. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sera lui, mais c'est quand même une piste qui n'est pas étudiée. Parce que sur le marché, à part lui, Conte et d'autres, c'est vrai qu'il n'y en a pas quand même beaucoup.
Moi, j'ai l'impression que ça sera plutôt un Italien qui viendra.
Tu penses que ce sera un intérimaire?
Ouais.
Donadoni 6 mois ou...
Ouais, Donadoni ou Guidolin, ça parle de Guidolin en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que ce sera plus ça, ouais.
Parce qu'on a beaucoup de questions sur le possible successeur. Jardim, ça serait quand même. Moi, j'aimerais bien, tu vois.
Ça sera un bon coup, Jardim. Hein.
Ouais, Jardim, honnêtement, avec beaucoup d'Italiens m'ont demandé hier ce qu'il avait fait à Monaco. Ben, je dis, mes amis, il a quand même fait beaucoup.
Ouais.
Parce que, avec le travail qu'il a fait, on lui démontait l'équipe chaque été. honnêtement, Jardim, je pense qu'il mériterait quand même un grand club, et c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé le voir. Enfin, j'aimerais bien le voir. Après, Wijnaldum, ce serait peut-être 6 mois, voilà, jusqu'au juin prochain. Après, je pense que le rêve de tout le monde, on va pas se mentir, c'est Kanté. Alors après, moi, je serais de l'avis d'économiser, par exemple, sur un joueur, de sacrifier un joueur et prendre Kanté, parce que je pense que pour se sortir de tout ça, il faut un vrai entraîneur et un entraîneur de renom avec une grosse expérience, donc Kanté. Après, là, il y aura plusieurs noms, donc je pense que après le match de samedi contre la Spal, si ça se passe mal, Gattuso prendra la porte, c'est sûr. Et après, je pense qu'il y aura quand même quelques jours de réflexion autour de soit un intérimaire ou soit voilà, soit un vrai coach tel Wenger, Jardim ou autre. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, et pour le moment, les réponses sont multiples.
Bah, y a pas mal de débats d'ailleurs dans nos mentions sur Twitter, puisque ouais. Amir Boulal, Doxis et Jérémy RCS, voilà, sont pas trop d'accord. Il y en a qui voudraient garder Gattuso parce qu'on peut pas avoir mieux, enfin que Milan ne peut pas avoir mieux. D'autres, Jérémy et Doxis, voilà, sont un peu catastrophés par le jeu et la dynamique de l'équipe, mais bon, remplacé par Donadoni ou Guidolin, ça a pas trop d'intérêt, donc voilà. Les supporters de Milan sont quand même aussi assez partagés sur ça. En gros, c'est oui, on peut changer, mais pour mettre qui? C'est oui. Surtout ça, en fait, hein, c'est ce qui vient après qui est plus intéressant.
J'ai une question pour toi, si tu veux.
Allez.
Elle t'est pas adressée, mais je te la donne comme ça. Alors, la question, c'est: est-ce que tu vois Benassia partir cet hiver? Et globalement, que penses-tu de la rotation des défenseurs de la Juve?
Ah bon, on en avait parlé lors d'un podcast il y a quelques temps, de la rotation de la Juve avec Rugani et Benatia qui ne jouent jamais quasiment. Benatia peut-il partir? J'ai du mal à imaginer la Juve lâcher Benatia cet hiver, sachant que il assure quand même une qualité, si on a besoin de faire appel à lui, qui n'est pas négligeable, que si tu prends un défenseur qui a besoin d'un temps d'adaptation à la Juve, c'est pas une bonne idée quand t'as un objectif de gagner une Ligue des Champions, et que si t'as un suspendu, bah Benatia c'est quand même ton défenseur remplaçant numéro 1. Que lui veuille partir, oui, ça commence à se savoir, et etc. Qu'il puisse partir en juin, je l'imagine aisément. Au mois de janvier, j'ai déjà beaucoup plus de doutes, et moi je serais la Juve, je mettrais mon veto absolu à un départ, et puis la rotation, bah écoute, Rugani perd pas mal de temps, je trouve. Depuis qu'il a rejoint la Juve, et il joue pas assez à mon goût, et j'ai l'impression qu'il perd du temps parce que c'est compliqué de prendre la place de Bonucci et Chiellini, et que bah aujourd'hui son axe de progression s'est un peu décalé, et voilà, il progresse pas assez vite. Donc ça serait bien aussi pour lui qu'il joue un peu plus, mais ça c'est le problème des grands clubs, concurrence XXL.
Ouais. Est-ce qu'on parlera pas du Napoli avec une question avec une remarque de notre ami Don Baldi.
Don Baldi, comment va ce cher Don Baldi?
Est-ce que on va lui répondre?
Je oui. ne sais, éventuellement. Nous verrons si la question est suffisamment intelligente.
Alors, le niveau de jeu catastrophique du Napoli depuis des mois. Le 4-4-2 qui ne fonctionne pas. Le néant offensif, entre parenthèses, on se crée à peine une occasion par match, même contre le Chievo et la Spal. Caléron, 0 but. Il dit: je vais appeler l'antenne pour gueuler.
Alors, bienvenue sur l'antenne Football et Poivre. Alors, il y a beaucoup de choses quand même dans ce qu'il dit.
Le 4-4-2.
Oui, il a très bien marché en début de saison. J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment un problème de système. Le fait est qu'on l'a expliqué en début de saison, il faut se débarrasser un peu de... En fait, il faut déjà se débarrasser des images du Napoli de Sarri qu'on a en tête. Ça n'arrivera plus, de façon très probable, et c'était pas suffisant pour gagner un titre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Ancelotti est tout sauf un entraîneur à la Sarri, et lui, il a pas le jeu comme élément fondateur de sa manière de coacher. Fondateur, c'est le management et les moyens d'arriver à un résultat. Mais le jeu n'est pas un élément, je vais pas dire pas central, parce que ce serait un peu sévère, mais disons qu'il arrive à s'adapter à beaucoup de situations, et Ancelotti au PSG, c'était pas toujours la régalade. Le Ancelotti au Bayern, c'était pas non plus toujours la régalade. Donc ça, c'est deux éléments. L'autre truc, c'est il se crée une demi-occasion, c'est ça?
Oui.
Bon, alors, j'ai regardé un petit peu les expected goals, là, en parlant. Bon, ils ne créent pas une occasion contre la Spal. Ils sont quand même à 2,69 d'expected goals, ce qui est quand même la moyenne très haute. Donc, c'est en gros, on attend 2-3 buts marqués. Après, qu'il y a un problème dans la finition, sans doute, puisque Insigne et Mertens ne marquent plus depuis quelques semaines maintenant. Mais on peut pas dire non plus qu'il ne se crée pas d'occasion. Il y a certains matchs où ça se vérifie. J'ai en tête, je crois que c'était contre le Chievo, où c'était pas vraiment brillant du côté de Naples, mais on peut pas dire non plus qu'ils sont catastrophiques. Je regarde contre Frosinone, ils sont à 2,30 d'expected goals. Voilà, donc c'est pas non plus là. Je le trouve bien sévère, même si effectivement la qualité de jeu a baissé entre le début de saison et aujourd'hui. Et puis le reste de la question, c'était quoi? Il me semblait qu'il y avait autre chose.
Ah, attends, faut que je la retrouve, parce que je regarde.
Même contre le Chievo, hein, ils sont à 1,33.
Voilà. Et les Caléron, 0 but.
Oui, bah ça.
On sait que c'est son.
En même temps, hier, il a commencé à air droit, hein, donc c'est plus dur pour marquer.
C'est un... Et à la fin, à la fin, il disait, je vais appeler l'antenne pour gueuler. Voilà.
Bon. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, hein, mais.
Si, je suis, la plupart.
Après, il y a autre chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être parti sur un 4-4-2 avec souvent 4 milieux axiaux qui joue dans ce 4-4-2, par exemple hier. Oui. On a quand même Ruiz, Zielinski, Alan et Hamzik qui sont alignés au milieu de terrain. Donc, il n'y a pas vraiment de milieu de débordement ou pour combiner sur les côtés, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils rentrent, ils ont tendance à rentrer dans l'axe. Les deux étaient en faux pied. Donc, Fabian Ruiz est à droite au tout début du match et Zielinski était à gauche. Donc, c'était pour faire place à Mario Rui et aux montées de Calderón. Je pense que c'était ça le plan d'Ancelotti, mais bon... Quand t'as autant d'ailiers de base que sont Insigne, Verdi, Unas, Calderón, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir totalement abandonné le 4-3, mais qui sait, on pourrait peut-être le revoir, hein, parce que Insigne ne marque plus dans cette position de deuxième attaquant. Donc, sachant que Milik a un peu pris le pas maintenant sur Mertens en ce moment, avoir un attaquant de surface et deux ailiers de débordement, ça peut être aussi intéressant.
Ouais. Alors, une autre question.
Elle était bien cette question de Don Baldi, hein.
Oui, très bien. Monsieur Mehdi qui demandait.
Ah.
Zaniolo plus fort que Mbappé, oui, mais à quel point?
Oui, alors Monsieur Mehdi, on lui conseille d'arrêter les live tweets en majuscules, déjà, premièrement. Et
puis, avec les compositions d'équipe, hein, qui m'ont toujours beaucoup rire.
Voilà, et ensuite l'amour fait perdre la raison, et j'ai l'impression qu'il est très amoureux de Nicolò Zaniolo.
Oui. Alors, pour le coup, une vraie question de Zéro Mental FC, @Venox, qui demande une question sur la Roma. Et qui, d'après vous, Schick va-t-il partir en prêt cet hiver ou alors va-t-il rester dû à sa prestation d'hier?
Va-t-il partir en prêt cet hiver? Alors, il y avait cette rumeur de il va retourner à la Samp en prêt et puis la Roma va récupérer Defrel. Mais bon, déjà, Defrel, ça fait plusieurs matchs qu'il ne marque plus non plus, donc je vois pas trop l'intérêt. Sachant que Defrel n'est pas un vrai numéro 9 non plus et que l'environnement de la Roma lui a pas réussi lors de cette... Lors de cette première saison, c'est pas forcément que le match d'hier, mais c'est simplement que c'est la seule alternative à Dzeko. Ouais. Et que c'est un peu un profil similaire, c'est-à-dire un joueur qui est capable de jouer dos au but, qui est quand même assez bon techniquement, même si parfois on en vient à douter, qui est assez grand, qui est bon de la tête, qui peut faire jouer les autres. Donc c'est un peu pour ça qu'ils l'ont pris à la base, c'est pour faire un Dzeko plus jeune, même si ça marche pas trop pour le moment. Mais non, j'imagine pas trop Schick partir cet hiver. J'en ai une pour toi.
Vas-y, dis-moi.
Quid de Milinkovic-Savic,
ah, oui.
Qui semble enfin revenir à un niveau honnête, précisons quand même qu'hier, pour moi, son match est assez vilain. C'était surtout le match d'avant qui avait été plutôt bon contre Cagliari.
Marqué, c'était un peu débloqué.
Voilà, la Lazio peut-elle espérer la C1 et un parcours honnête en Europa League? Et si elle se retrouve, si elle retrouve ceux qui l'ont rendu si forte l'an passé, donc je pense qu'il pense à Milinkovic Luis Alberto.
Oui, si l'écart revenait à leur niveau, oui. Évidemment, l'année dernière, ils étaient arrivés en quart, si je ne m'abuse, c'était en huitième, je crois que c'était en quart, ils sont éliminés bêtement, ils prennent 4 buts en 3 minutes.
Contre Salzbourg, c'est ça?
Ouais, Salzbourg.
C'est en quart de finale.
C'est incroyable. C'est en quart de finale, hein. Après, ils ont joué Marseille aussi, après. Donc,
ouais.
C'est assez incroyable. Oui, c'est les cadres à un niveau. Oui, ils peuvent espérer un bon parcours. Après, cette année, le plateau me semble assez relevé. En puis, il y a l'Inter, Naples, qui sont plus armés aussi pour peut-être aller loin. Il y a Chelsea, donc il y a quand même beaucoup d'équipes. Sur Milinkovic-Savic, il s'est débloqué, c'était la semaine dernière, où il a fait pleurer après son but. Après, ça reste quand même, comme tu disais, ça reste en Dancy, hein. C'est quand même pas non plus le Milinkovic-Savic qu'on a connu. Je pense qu'il faut du temps. Après, faut voir aussi ce qui va se passer au mercato. Peut-être pas de janvier, mais l'été prochain. Ça semble quand même compliqué parce que je pense qu'il s'est certainement vu ailleurs cet été. c'est pas fait. Alors est-ce que ça va revenir l'été prochain, pardon, c'est possible. Et est-ce que la Lazio peut espérer avec les champions? Oui, oui, parce que cette année, on l'a bien vu avec Milan. Hein, Milan a eu deux fois l'occasion de prendre les devants et prendre un peu de points d'avance sur la Lazio. Ils ont raté le coche. L'année dernière, la Roma, la Lazio, l'Inter, même bah, Napoli évidemment, elle est vraiment à un rythme très rapide. Et là, cette année, c'est quand même plus compliqué. La Roma vient quand même de un mois et demi, deux mois compliqué. La Lazio n'a pas gagné pendant un mois. Et pourtant, bah, ils sont toujours là. La Lazio a déjà 5 points d'avance ou 4 sur Milan. Donc, ça va vite. Donc, évidemment. Et d'ailleurs, la Roma, on a beaucoup parlé de la Roma, mais la Roma aussi est en course.
Ouais.
Donc, et puis, il y a la Sample, Torino. Enfin, c'est vraiment ouvert. Donc, oui, la Lazio peut arriver ancien. Et j'ai même envie de te dire, ce serait même mérité au vu de quand même des années qu'elle fait. Donc, c'est vraiment possible qu'elle y arrive. Après, rien n'est fait, mais elle est bien positionnée. Et puis, elle me semble quand même plus construite et plus, même si l'effectif est peut-être moins bon que celui de Milan, on voit quand même que la Lazio, c'est une équipe quand même qui sait jouer au ballon, qui sait ce qu'elle veut. Donc, oui, oui, elle peut clairement arriver en Ligue des Champions cette année.
Alors, une autre question de JLNPP. Donc, un ami, je pense, qui aime le poivre. Ça doit être Julien d'ailleurs, parce que c'est Jus, son pseudo. Pouvez-vous faire un point série B? Eh ben, écoute, on en fera un dans les prochaines semaines.
Oui.
Avec notamment les mecs du site Série Bellissima. Donc, rendez-vous.
Et j'ai vu, une autre question. Alors, j'ai pas le plus souvenir, c'est les tops et les flops du mercato.
Oui, alors, il y a Brogdon, John Inkramer, qui nous demande ça. Et aussi, Ayam Longo, ou Yam Longo, je sais pas comment il veut qu'on le dise. Est-ce que t'as des joueurs en tête déjà?
Bah écoute, là maintenant, j'ai envie de dire Higuain, mais parce qu'il a quand même moins de buts que certains, mais moi j'arrive pas à le critiquer parce que je connais tellement la valeur de joueur que pour moi il est pas mis en valeur. Donc ça pourrait être considéré un flop dans le sens où voilà, on s'attendait tellement à beaucoup, mais je pense que lui il est pas pour grand chose, même s'il a ses fautes évidemment, mais sinon là maintenant comme ça.
Alors il y a deux choses différentes, il y en a un qui demandait les flops tout court et les autres les flops des recrues. Donc moi, les flops tout court, je peux mettre Fazio dedans, parce qu'il a un niveau catastrophique. En flop des recrues, bon, Keita Baldé, j'attends plus aussi à...
Bah, je l'ai, moi, le flop.
Allez.
j'ai le flop, Nainggolan.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, eh oui, Nainggolan, parce que... Et d'ailleurs, on va se demander à la fin si l'affaire n'a pas été faite par la Roma, qui a récupéré Zaniolo,
oui.
Plus 24 millions.
Oui, plus Santon, ouais. Mais ça c'est autre ouais. Chose.
Oui, bon, Santon, c'est
autre justement, chose, mais... dans les flops recrues, on peut aussi mettre Santon. Il y a, si on reste sur la Roma, Nzonzi, on est en droit d'attendre un peu plus quand même de lui et de son expérience, et voilà.
Non, mais ça pourrait faire une rubrique dans le prochain, pourquoi pas.
Hein, oui, bah, de toute façon, on va faire un bilan le 7 janvier avec Stanislas Touchot, donc journaliste de l'AFP. On fera un bilan à la mi-saison, donc on fera aussi les tops et flops. Là, on vous donne un premier aperçu de nos top flops. Ouais.
L'Axalt aussi est un flop. Hein,
L'Axalt
à Milan.
Oui,
L'Axalt qui est quand même international uruguayen et qui est une bonne saison au Genoa, donc, enfin, même de plusieurs. Donc, oui, quand même. Castillejo, c'est pas non plus la folie. Bon, avec plusieurs joueurs, c'est quand même compliqué.
Encore,
mais on fera un point dessus.
Ouais, encore deux petites questions. Siempre Real Madrid, hein, donc on a vite vu pour qui il était. Comment trouvez-vous l'impact de Cristiano Ronaldo sur cette équipe de la Juve depuis son arrivée?
Bah, Chiellini a tout résumé. Hein, j'ai dit tout à l'heure. Il a dit bah, dès qu'on est en difficulté, Ronaldo est là. Hier, il sort du banc. Et légalise, alors que la Juve à 10 sur un terrain très difficile. Donc, évidemment, que Ronaldo s'est très vite adapté. Enfin, est-ce qu'on peut lutter de lui? Non. Après, sur sa capacité à s'adapter aussi vite à la Juve au championnat, bon, on aurait pu se dire, bon, il va falloir du temps. On se rappelle qu'il avait passé ses premiers matchs sans marquer. Ça avait fait, voilà, les unes. C'était un peu quand il a marqué. Puis finalement, une fois qu'il s'est débloqué, bon, bah, je pense qu'on est, maintenant, ça tend beaucoup de lui aussi avec des champions. Quand vont arriver les échéances contre l'Atletico, où il va devoir être présent, il va répondre présent. C'est surtout là qu'on va attendre. Il n'a pas été acheté pour gagner la Serie A. La Serie A, la Juve l'a gagné sans lui. Forcément, avec lui, c'est encore plus simple. Mais on l'attend surtout avec les champions, donc on pourra aussi répondre à ça en février et même, bon, peut-être plus loin si la Juve va plus loin avec les champions.
Et une dernière question. Alors, pour donner mon avis rapide aussi sur Ronaldo,
oui.
L'impact est évidemment hyper positif parce qu'il marque et qu'il fait gagner son équipe ou en tout cas il lui permet de prendre des points. Moi, j'attends un peu plus dans l'organisation offensive de la Juve et je trouve qu'Allegri a pas encore trouvé la bonne formule avec Mandzukic et Dybala. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans cette association à trois et c'est un peu normal. Hein, c'est des joueurs qui sont totalement différents et même si Mandzukic, Ronaldo, ça fonctionne pas mal, mais avec Dybala, c'est un peu plus compliqué. Donc j'attends de voir quel sera le ce que va réussir à faire Allegri avec ces trois joueurs et donc intégrer un peu plus dans le jeu vraiment dans le jeu Cristiano Ronaldo. Et enfin dernière question de Idriss Kasmi. Quel est le plafond de verre? Non, quel est le plafond de l'Inter à moyen terme selon toi?
Moi, l'Inter, honnêtement, pour moi, je suis optimiste sur l'avenir parce que on verra bien ce que fera Spalletti. Moi, c'est vraiment un entraîneur que j'aime bien. Je pense qu'il y a quand même une base très solide. On sait qu'un jour ou l'autre, voilà, Simone viendra. Donc, on sait pas quand. On sait que lui, il a envie de venir. Ouais. Bon, honnêtement, l'Inter est sorti de sa spirale dans laquelle Milan est encore. Encore bloqué dedans. L'Inter est un club malade, il est plus que sur la voie des guérisons. On l'a encore vu hier. Maintenant, c'est une équipe solide de Serie A. Ils ont retrouvé leur place. Moi, je suis optimiste pour l'Inter. Donc, le plafond de verre. Évidemment, cette année, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de suspense pour le titre, en espérant que l'Inter, avec Lautaro Martinez, avec Keita Valdez, c'est vrai qu'ils avaient fait un beau mercato aussi, mais. Bon, on voit que la Juve est vraiment au-dessus. Après, je pense que dans les années prochaines, dans les années à venir, les supporters sont toujours là. Ils ont encore fait 64 milliards. Donc non, moi je suis optimiste pour l'Inter. Je pense que le jeu est là. Il y a encore quelques erreurs par-ci, par-là. Mais je pense honnêtement que ça peut aller loin. Je ne sais pas ton avis, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie, du moins pour l'avenir.
Écoute, on va les citer puisqu'on a tous les deux répondu à un de leurs questionnaires, Stile Juve. Qui nous a posé du coup dans le questionnaire il y avait une question: quel est pour vous le principal rival de la Juve cette saison? Et donc moi j'avais élargi un peu le truc, je leur avais dit cette saison c'est le Napoli qui semble avoir évidemment une longueur d'avance encore sur l'Inter, mais à moyen terme, vu où en sont les projets des 5 principaux clubs italiens, j'ai l'impression que l'Inter peut être celui qui va concurrencer la Juve dans les 2, 3, 4 années à venir. Parce qu'il y a des bases plus solides et une organisation. Alors base, j'entends notamment économique, hein, avec l'actionnaire, avec l'image de l'Inter dans le monde, ce que ça peut rapporter, etc. Et aussi une structure, une organisation qui me semble assez intéressante avec l'arrivée de Marotta. Voilà, j'imagine que dans les 2 à 4 années à venir, ça peut être vraiment le rival numéro 1 de la Juve. Mais cette saison, c'est encore trop tôt évidemment parce que ça partait d'un peu bas et il manque encore pas mal de choses.
Mais ils sont déjà revenus en Ligue des Champions, c'est déjà un premier pas,
hein, exactement.
Vers la guérison entre guillemets. Donc, je pense que le match gagné face à la Lazio l'année dernière, qui leur permet la qualif, c'est vraiment le début du renouveau entre guillemets. Mais il faut du temps. Chaque joueur en son temps. On sait que les supporters italiens sont impatients. Ils veulent tout de suite tout. Non, il y a la Ligue des Champions cette année. Voilà, ils ont failli passer dans un groupe difficile. Donc pourquoi pas aller voir loin en Europa League, ce serait déjà même un autre pas. Mais voilà, l'Inter, je suis un peu de ton avis. Je pense que sur les prochaines années, ça peut vraiment être le rival de la Juve.
Bon, et ben on est pas mal au niveau des questions, j'ai l'impression. Hein.
Non, on a tout fait. Moi, j'ai vérifié, je pense qu'on a tout fait.
Donc, on a tout fait. Bah, écoutez, il nous reste...
Merci à tous. Hein,
ouais, évidemment, il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. De passer un excellent réveillon du 31 décembre.
Évidemment.
Ah non, j'ai une dernière question, tiens, qui est là. Non. C'est une question de Johan Crochet sur Twitter et qui demande: est-ce vrai que Guillaume préfère la focaccia à la quiche lorraine?
Comment dire? Oui. Oui, je dois avouer que la focaccia avec une petite tranche de jambon cru au milieu, un peu de mortadelle, là je ne dis jamais non. La quiche lorraine et le pâté lorrain sont dans mon cœur, mais l'amour que je porte pour la focaccia, la pizza et plusieurs autres aliments italiens, voilà, ont tout mon amour. Donc voilà, j'ai mon cœur divisé en deux, donc il y a la place pour tout. Mais Johan, merci de ta question.
Je t'en prie. Hein,
et sache que tu es un vendu. Voilà.
Bon, et ben écoutez, 21e et dernier épisode de l'année 2018. On se retrouve donc la première semaine de janvier. J'essaie d'ouvrir mon calendrier en même temps pour trouver exactement la date. C'était donc bien le 7 janvier. Avec Stanislas Touchot, on fera un bilan de la demi-saison en Serie A. avec les tops, les flops, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, les équipes à retenir, même les petits clubs qui font des choses bien, le jeu, la tactique, enfin, bref, beaucoup, beaucoup de choses qu'on abordera lors d'un podcast spécial. On vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux 31 décembre à tout le monde, profitez-en bien, soyez prudents, évidemment, si vous prenez le volant, la petite phrase qui ne mange pas de pain, et puis on se dit donc au 7 janvier et à l'année prochaine. Merci Guillaume.
Salut à tous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.